Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bon réveil à vous tous, on écoute ensemble Le Monde Change et votre premier journal de cette matinée avec François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 5h.
Ça continue et je sais pas quoi faire. J'ai 3 employés, j'en ai débauché d'autres. Si ça continue comme ça, je vais rendre les clés.
Ils sont accablés, les restaurateurs marseillais, obligés de fermer de nouveau pour 2 semaines minimum en raison de la circulation trop intense du virus dans la métropole. On récapitule dans ce journal les principales annonces du ministre de la Santé, zone par zone. L'impact est très dur pour tout le secteur culturel et sportif notamment. À la une également, toujours plus de conducteurs sans assurance, c'est une information Europe 1. Et puis hommage à Juliette Gréco, disparue hier après une carrière éblouissante où les plus grands auteurs et compositeurs lui offrirent des chansons par dizaines.
Votre journal des sports à suivre et notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette avec notre bande d'agriculteurs. Ce matin, nous irons dans les Pyrénées-Orientales chez notre éleveur de porc. Bienvenue à vous tous, 5h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Une punition collective, selon le président LR de la région Sud, Renaud Muselier. Colère et étonnement pour la maire écologiste de Marseille, Michel Rubirola. C'est peu dire que la décision annoncée hier soir depuis Paris par le ministre Olivier Véran fait bondir les élus locaux, droite et gauche. Fermeture pure et simple des bars et restaurants à partir de samedi dans la métropole d'Aix-Marseille. Pour Europe 1, Stéphane Frangy est allé dès hier soir à la rencontre des professionnels.
La colère et l'amertume l'emportent pour beaucoup, comme Jacques, derrière le comptoir de son bar tabac.
C'est justice à deux vitesses, parce qu'on ferme les bars et les restaurants, parce que le virus ne circule pas dans les centres commerciaux, effectivement, dans les salons de coiffure, ça, il ne circule pas le virus. Il est interdit d'accès. Il rentre que dans les bars et que dans les restaurants. En fait. Tout ça, c'est que du bidon.
Et ces mesures du ministre de la Santé risquent d'être contre-productives, estime Jamila, gérante d'un bar-restaurant.
Si les gens veulent se réunir d'une façon ou d'une autre, ils iront en supermarché, acheter de l'alcool. Et là, je pense qu'on va encore plus faire courir de risques, parce qu'on n'aura aucune surveillance.
Pour Polo, patron d'un petit troquet de quartier depuis 47 ans maintenant, c'est peut-être le coup de grâce.
C'est très dur, ça continue et je ne sais pas quoi faire. J'ai perdu 70% de ma clientèle, je ne fais plus rien. J'ai 3 employés, j'en ai débauché d'autres. Si ça continue comme ça, je vais rendre les clés.
Et tous doutent des aides promises par le ministre comme de l'objectif que ces mesures ne durent pas plus de 2 semaines. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Pour résumer, Aix-Marseille ainsi que toute la Guadeloupe sont classés en zone d'alerte maximale. C'est aujourd'hui l'échelon le plus élevé. Il implique aussi la fermeture de tous les établissements recevant du public, sauf quand il existe un protocole sanitaire strict déjà en place.
Quant aux zones d'alerte renforcées, c'est-à-dire le deuxième niveau de vigilance, il s'applique à 11 agglomérations, dont les métropoles de Bordeaux, Lille, Nice, Rennes, Toulouse et Paris et les 3 départements de la Petite Couronne.
Dans cette zone-là, les rassemblements dans l'espace public sont limités à 10 personnes. Les fêtes locales et les fêtes étudiantes sont interdites. Les bars seront partiellement fermés selon des horaires que vont décider les préfets. Les gymnases parisiens seront fermés aussi à partir de lundi. Décision difficile pour beaucoup de petites associations sportives, comme on va le voir à Boulogne-Billancourt, avec ce tout dernier entraînement hier soir dans un club de basket. Pierre Arbulot.
3 semaines après le début de la saison, les derniers crissements de parquet résonnent dans le gymnase. Julien, le responsable du club, vient d'annoncer la nouvelle à l'équipe senior en plein milieu de l'entraînement.
Après voilà, on verra ce qui se passera dans la suite de la saison en espérant que ça réouvre assez rapidement pour nous.
Bon pour tout le monde.
Il n'est pas en colère, mais résigné.
Bah, c'est comme ça, de toute façon on n'a pas trop le choix. Pour l'instant, bah, on va espérer que ça ne dure pas comme l'année dernière où ça nous coupe toute la saison complète. Maintenant, on savait qu'on était un sport en salle aussi et que dès qu'il y aurait un problème, on serait les premiers impactés.
Pour les licenciés, c'est la douche froide avant même le retour au vestiaire.
Après tout ce qu'on a fait, prépa physique et tout, c'est vraiment, ça nous casse vraiment. On est déçus là.
C'est triste. Franchement, c'est un coup au moral. On s'y attendait pas du tout.
Ce n'est pas faute pourtant d'avoir adapté les entraînements, raconte Florence qui coach les cadettes.
On devait désinfecter les ballons, se passer les mains au gel sans arrêt, entraîner avec masque pour les entraîneurs. Et les joueuses avaient des mesures aussi de ne pas se rapprocher, etc. Et on les respectait, on a tout appliqué dans les normes et puis maintenant on arrête.
Reste un dernier match à jouer ce week-end pour le club en tête d'un championnat à l'avenir très incertain.
On le disait, la Guadeloupe est avec Aix-Marseille en alerte maximale. La situation empire jour après jour dans ce département d'outre-mer. 16 morts en une semaine alors qu'il y en avait eu 26 depuis le début de l'épidémie.
Au CHU de Pointe-à-Pitre, les malades affluent de plus en plus chaque jour. Les précisions de Mathieu Bock.
Pour accueillir ces nouveaux malades, les équipes médicales ont dû transformer la cantine de l'hôpital. À la place du self et des tables, des lits médicalisés ont été installés. Le service de réanimation est saturé, explique son chef Marc Valette.
Nous avons reçu au total 94 patients en réanimation depuis un mois, alors que sur la première crise, nous avions reçu 31 patients sur deux mois et demi. Donc en un mois, nous avons reçu trois fois plus de patients que sur la première crise. Et le nombre de patients présents en même temps en réanimation est monté à 28 contre 20 au maximum lors de la première crise.
Sur l'île, le nombre de contaminations explose. Un quart des tests sont positifs, quatre fois plus que la moyenne nationale. Plus de 1000 cas ont été recensés en une semaine contre 3000 depuis le mois de mars. Les équipes sont à bout. L'État a donc envoyé 36 personnels soignants de la réserve sanitaire en renfort, comme Pierrick Tristan, un infirmier venu de Perpignan.
Ils sont presque en burn-out avec le travail qu'ils effectuent et venir les remplacer les soulage énormément. Ça me paraissait évident de venir leur donner un coup de main, aider cette population-là qui en a grand besoin.
Mais ces renforts ne sont pas suffisants. L'armée va donc envoyer des médecins et des infirmiers sur place. On espère qu'ils seront au moins une cinquantaine à venir le plus vite possible.
Il est 5h06 sur Europe 1. C'est un fléau qui court nos routes, quasiment impossible à endiguer. On estime à 800 000 le nombre de conducteurs qui roulent sans assurance.
Et selon les nouveaux chiffres du fonds de garantie que vous révèle Europe 1 ce matin en exclusivité, en 6 ans, le nombre de victimes de ces automobilistes non assurés a progressé de près de 7%, soit 28 000 dossiers indemnisés l'an dernier par ce fonds de garantie. Et les dégâts sont de plus en plus graves, Audeleroy.
Alors que les chiffres des accidents sur la route baissent, il y a parallèlement des dégâts plus importants pour les victimes. On parle là de celles de conducteurs qui roulent sans assurance. C'est le comportement de ces non-assurés qui inquiète Julien Renski, le directeur général du fonds de garantie.
Peut-être que les comportements au volant des conducteurs non-assurés sont devenus plus agressifs, plus violents. Deuxième phénomène, les coûts de l'indemnisation des dommages corporels progresse, notamment la hausse des frais médicaux, la hausse de l'espérance de vie des victimes.
Cette violence, Gaëtan Crevier l'a vécue il y a 2 ans, un soir d'été à Paris. Il est fauché par un homme en scooter qui slalome à toute vitesse sur un trottoir. Genou fracturé, greffe osseuse, plaque et plusieurs broches dans la jambe. Le jeune restaurateur a son avenir compromis, même s'il va être indemnisé.
Je vais percevoir environ 32 000 euros de la part du fonds de garantie, ce qui est une belle somme, mais à côté de ça, je ne vais pas récupérer mon genou, mon tibia. Je sais que je vais souffrir toute ma vie. Je suis amené à peut-être avoir d'autres opérations si les greffes osseuses se sont mal passées.
Et aujourd'hui, le fonds de garantie s'inquiète des conséquences du confinement. Avec des conducteurs non assurés toujours plus violents, le phénomène risque de s'aggraver.
Il y a un an, jour pour jour, le gouvernement faisait signer une charte aux professionnels du jouet pour tenter de mettre fin au marketing genré, c'est-à-dire le cliché comme le rose pour les filles, bleu pour les garçons, cela vaut aussi dans le secteur du jouet, les poupées ou les petites voitures, la dinette ou le bricolage. Alors, la filière doit se réunir aujourd'hui au ministère de l'Économie pour renouveler cette charte. On fait déjà un premier bilan ce matin avec Élise Dangean.
Créateurs, fabricants et distributeurs de jouets sont unanimes. Ils ont tenu leurs engagements. Nouveaux produits, refonte des catalogues et de l'organisation des rayons, formation des vendeurs. Et en magasin, l'effet se fait déjà ressentir, selon Aïcha, maman de 4 enfants.
C'est vrai que maintenant, on trouve aussi des jouets qui étaient plutôt étiquetés garçons, qui sont aussi maintenant pour les filles. Bah, typiquement, jeux avec des fléchettes ou des choses comme ça, qui sont plus neutres.
Mais les packagings rose et bleu n'ont pas complètement disparu. Et pour cause, disent les professionnels, les clients sont demandeurs. C'est le cas de Bruno, par exemple, venu faire plaisir à son petit-fils.
Si vous lui ramenez une poupée ou une dinette, ça ne le fait pas, quoi, n'est-ce pas ?
Oui.
Oui. Voilà.
Franck Mattet, porte-parole de Jouet Club, le rappelle, le jouet est une industrie comme une autre qui répond à la demande.
Certains produits qui sont mixtes, l'année suivante, ils arrivaient en deux couleurs, avec une destination garçon et une destination fille. Et là, les ventes étaient entre 1,3 et 1,6 fois plus. Donc les fabricants, quand ils voient que les lignes, elles bougent doucement, eh bien, ils attendent en fait.
Et ils attendent notamment Noël prochain pour savoir si les clients sont prêts à se tourner vers ces nouveaux jouets mixtes.
Et on va en parler avec l'invité inattendu du 5-7 tout à l'heure aux alentours de 6h10. Ce chanteur de 21 ans qui représenta l'Eurovision il y a quelques années, il incarne justement cette génération qui refuse les cases garçon-fille.
Elle, avec 93 ans et une carrière de 70 années, interprète des plus grands. Juliette Gréco s'est éteinte hier, entourée des siens dans sa maison de Ramatuelle. Emmanuel Macron salue son élégance, sa liberté. Juliette Gréco qui rejoint, dit-il, le panthéon de la chanson française. Pour Europe 1, Angèle Châtelier revient sur cette œuvre et cette vie hors du commun.
Sous le ciel de Paris.
Un Paris qu'elle aura éclairé toute sa vie. La fin de la Seconde Guerre, loin de l'ivresse insouciante de la libération, Juliette Gréco a 15 ans, une orpheline sur les pavés de l'avenue Foch. Sa mère et sa sœur résistante ont été déportées. Elle sera recueillie par une ancienne professeure, Hélène Duc, qui habite rive gauche, à quelques pas de Saint-Germain-des-Prés, qui deviendra son univers, sa scène, son royaume. Elle y rencontrera notamment Boris Vian et Jean-Paul Sartre, qui signera sa première chanson.
La rue des blancs manteaux.
La petite Juliette devient la grande Gréco. L'élégance, la poésie, l'intelligentsia parisienne, l'amante de Miles Davis, puis l'épouse du pianiste Gérard Jouannet. En 2009, elle confiait à Europe 1 de sa voix rauque ce que voulait dire servir un texte.
C'est essayer de rendre intelligibles des choses qui ne sont pas toujours, magnifier les mots, servir au maximum celui ou celle qui a écrit.
Il y a eu les mots de Robert Niel, deux mots, une irrésistible invitation, déshabillez-moi.
Dévorez-moi les yeux.
Puis les mots de Brel, de Gainsbourg, plus récemment ceux de Miossec, de Biolay. À quoi sert la vie si elle n'est pas un combat, si ce n'est pas un désir, répétait souvent celle qui monta sur scène pour la dernière fois en 2016, à 89 ans, enveloppée de son éternelle robe noire.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi. C'était Juliette Gréco, racontée par Angèle Châtelier.
Et on dédiera la partition d'Omblin Roche tout à l'heure à Juliette Gréco à 6h10 à travers tous ceux qui ont écrit pour elle justement et notamment Gainsbourg. C'était le journal de François Geffrier, il est 5h11.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une, Di Maria, sanctionné.
L'Argentin du Paris Saint-Germain suspendu 4 matchs par la commission de discipline de la Ligue de foot pour un crachat adressé au Marseillais Alvaro González lors du sulfureux PSG-OM le 13 septembre. Di Maria qui s'en sort bien. Le règlement prévoit 6 matchs de suspension. La commission a tenu compte du comportement d'Alvaro, pas irréprochable non plus ce soir-là. Alvaro justement, qui sera fixé comme Neymar mercredi prochain concernant les éventuelles insultes raciste.
Et sur les terrains, Reims retrouve la Coupe d'Europe ce soir.
Troisième tour préliminaire de la Ligue Europa en Hongrie contre Fehérvár des Champenois au début de saison poussif. 5 matchs, 3 défaites, une seule victoire. C'était justement cette victoire au tour précédent de Coupe d'Europe à Genève. L'entraîneur rémois David Guyon a bien potassé ses fiches sur l'adversaire hongrois du jour, actuel leader de son championnat. Il s'attend à un défi relevé.
C'est un club... une équipe qui tous les ans font la Coupe d'Europe. Donc c'est une équipe très expérimentée. C'est une équipe avec un pouvoir offensif aussi très intéressant. On franchit encore un palier avec cette équipe, encore un palier supérieur aux Servettes de Genève.
Fehérvár Reims, coup d'envoi 18h.
Bernard Laporte est sorti de garde à vue hier soir.
Le président de la Fédération française de rugby ressorti libre, comme l'homme d'affaires Moed Altrad, dans cette enquête du parquet national financier qui s'intéresse aux relations entre les deux hommes dans le financement du rugby français ces dernières années. Le PNF qui doit désormais décider s'il poursuit les investigations, s'il ouvre une information judiciaire ou s'il classe l'affaire. Nous voulions vous raconter ce matin cette histoire vraiment pas banale ou comment des personnalités aux États-Unis tentent de peser sur le scrutin présidentiel américain de novembre. Ces stars viennent de verser plusieurs millions de dollars pour payer les dettes d'anciens détenus américains en Floride afin que ces derniers puissent voter. On a besoin d'explications. Simon Rubin, parmi ces célébrités qui donnent de l'argent, figurent des basketteurs très très connus.
Et oui, puisque parmi les plus gros donateurs, on retrouve LeBron James, la star des Lakers, hein, très engagé politiquement. Et puis on retrouve aussi l'icône Michael Jordan. Au total, ce sont 20 millions de dollars qui ont été collectés, de quoi payer les dettes de justice d'anciens détenus en Floride. Et dans cet état, vous ne pouvez pas voter si vous avez encore des amendes à rembourser. Et donc on comprend l'enjeu énorme, hein, à tel point d'ailleurs que certains observateurs politiques aux États-Unis se demandent si cette aide colossale ne va pas chambouler le vote. Ce sont majoritairement des Hispaniques, des Afro-Américains qui seraient concernés et ils pourraient potentiellement faire basculer le scrutin dans un état clé de la présidentielle américaine.
Et en France, c'était la reprise hier soir du championnat de basket, près de 7 mois après son interruption pour cause de pandémie, bien sûr, et première performance majeure, la victoire 72-62 de Boulogne-le-Valois à Monaco, l'un des cadors du championnat.
Le chiffre du jour.
1000 spectateurs maximum pour les grands événements sportifs dans les zones d'alerte renforcées annoncées hier soir. Roland Garros, qui démarre dimanche à Paris, devrait donc être concerné. Les organisateurs espéraient hier encore au moins 5000 personnes par jour. Que vont-ils faire? Le patron du tournoi de tennis, Guy Forget, est ce matin l'invité d'Europe 1. Rendez-vous dans le journal de 8h.
Ouais, ils sont passés de 10 000 il y a quelques jours à 5000 et donc probablement à 1000. Hein. C'est dur pour Roland Garros et c'est dur pour tout le monde. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
5h15 sur Europe 1, place aux courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Compiègne et mon pari gagnant sera le 603 Falbala des Mottes. Voilà une jument sérieuse qui alterne avec réussite les deux spécialités, les haies et le steeplechase. 8 courses depuis le début de sa carrière, 3 victoires et 5 fois dans les 3 premiers. Cet après-midi, elle se présente sur un parcours particulièrement sélectif et sur une piste désormais très souple qui ne pourront que l'avantager. Dès lors, sans incident, elle devrait pouvoir une nouvelle fois s'imposer. Notez bien, pour Compiègne, réunion 1, dans la 6e course, le numéro 3, Falbala des Mottes.
C'est bien noté Thierry Léger. On vous retrouve dans 20 minutes pour vos pronostics du Quintet. Europe 1. Il est 5h16, nous allons ouvrir notre pressing du matin. Nous explorons les journaux et nous vous racontons les 3 histoires que nous repérons chaque matin. Omblin, qu'est-ce que vous avez repéré?
Personne n'a tiqué sur l'authenticité du diplôme. L'ordre des médecins bien dans l'embarras après avoir laissé une femme exercer pendant 5 mois. En tant que médecin, en Saône-et-Loire, elle vient d'être démasquée.
Elle n'avait pas de diplôme, elle n'avait rien. C'était donc une fausse médecin.
Bon, très bien.
L'histoire complète à suivre dans quelques secondes. À tout de suite sur Europe 1.
Chaque matin, prenons le temps de mieux comprendre cette période inédite.
Europe Matin, Mathieu Béliard.
Prenons aussi le temps du recul, mettons l'actualité en perspective, avec la culture de Stéphane Bern et l'humour de Nicolas Canteloup.
Oui, bonjour à toutes et tous.
Europe Matin, le 7-9, présenté par Mathieu Béliard.
A tout à l'heure, 7h, sur Europe 1.
Ce vendredi, méga jackpot Euro Million de 130 millions d'euros minimum. Quel millionnaire serez-vous? FDJ. Montant à partager euro en 1 et plafonné à 200 millions d'euros, voire règlement. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Europe 1, Sébastien Krebs.
5h17, la France en dégradé de rouge. L'alerte sanitaire est renforcée dans 11 grandes métropoles, dont Paris, Lille, Nice et Toulouse. Fermeture des bars au plus tard à 22h à partir de lundi. Fermeture totale des salles de sport et des salles des fêtes et grand rassemblement limité à 1000 personnes. À Aix-Marseille et en Guadeloupe, le tour de vis est encore plus fort. Ces deux zones sont classées en alerte maximale. Les bars et restaurants seront totalement fermés et cela dès samedi. La méfiance, moins de 3 mois après la nomination d'Éric Dupond-Moretti, 2 syndicats de magistrats appellent à des rassemblements contre le garde des Sceaux devant tous les tribunaux de France. On en parlera à 5h40 avec mon invité. Et puis le corps d'une aide-soignante portée disparue depuis samedi lors des intempéries dans le Gard a été retrouvé hier, portant à 2 morts le bilan de ces pluies et inondations.
Europe 1.
C'est parti pour le pressing du jour avec Amblin Roche et Paul Lassen. D'abord un coup d'œil aux unes des journaux ce matin et un visage partout ce matin, celui d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Le tour de vis, titre Le Parisien aujourd'hui en France, même terme choisi par Les Échos, c'est vers tour de vis pour les grandes villes, également en une de Sud-Ouest. La punition, voilà le titre choisi par La Provence à Marseille, zone d'alerte maximale. Les élus dénoncent une décision brutale. De plus en plus rouge, l'alerte aussi à la une du courrier Picard, alerte renforcée à Lille, la Voie du Nord, métropole sous contrôle renforcé dans les dernières nouvelles d'Alsace. Et puis un autre visage, ou plutôt une silhouette à la une, celle de Juliette Gréco en noir et blanc, de dos, la une hommage de Libération avec ce message « Nous vous aimions ». Son visage est aussi en première page de Midi Libre ou encore de Var Matin. Joli môme, Juliette Gréco s'est éteinte dans sa maison de Ramatuel. Et voici maintenant les 3 histoires qui ont attiré notre attention ce matin. Amblin, on commence par donc cette fausse médecin. dans la presse ce matin.
Elle n'avait ni diplôme ni formation. Elle a exercé pendant 5 mois. Elle a berné tout le monde, y compris le Conseil de l'Ordre. C'est le Huffington Post qui raconte ce matin l'histoire de cette femme qui s'est donc fait passer pour un médecin dans un centre de santé de Monceau-les-Mines en Saône-et-Loire. Elle suivait plusieurs centaines de patients. Tout commence en avril. La France est confinée. Cette femme d'une trentaine d'années sollicite l'Ordre des médecins de son département pour s'installer. Confinement oblige, elle transfère de manière numérique tous les documents nécessaires, notamment le diplôme, info de l'université de médecine Paris 13, vraisemblablement très bien imité, rien n'est vérifié. Inscription validée, elle commence les consultations au mois de mai. Le poteau rose est découvert cette semaine par l'un des administratifs du centre de santé. Il se trouve qu'une personne avait tenté l'an dernier de s'installer comme infirmière.
Ah bah tiens.
Son diplôme, bien sûr. Point commun entre les deux affaires. L'escroc porte le même nom. Ah. Le Conseil de l'Ordre des médecins. Le Conseil de l'Ordre des médecins porte plainte. Une enquête a été ouverte. Le Huffington Post en parle. Figaro.fr et puis le journal de Saône-et-Loire également.
C'est fou, les patients qui l'ont vu doivent être ravis.
Et pas du tout inquiets.
Ou un petit peu énervés. Oui.
Moi, je voudrais vous emmener en Californie avec une mesure spectaculaire pour l'environnement. Pendant qu'en France, on parle de supprimer les sapins de Noël. Bon, je caricature exprès, mais la Californie, 39 millions d'habitants quand même, va supprimer dans 15 ans, c'est demain, les voitures thermiques. Plus aucune voiture neuve ne pourra être vendue à partir de 2035 avec un moteur essence ou diesel. On apprend sur le site du Figaro que l'ordonnance a été signée par le gouverneur de Californie dans ce moment où on sait que cet État américain fait face à ces terribles incendies, avec cette fumée qui a envahi les grandes villes ces dernières semaines. Bah, le gouverneur fait ce constat, les transports sont responsables de plus de la moitié des rejets de carbone de l'État. Écoutez, le monde changé au pays de la voiture reine. On voit bien ces autoroutes gigantesques en Californie, à Los Angeles. Eh bien voilà ce que dit le gouverneur. Nos voitures ne doivent pas aggraver les feux de forêt, ne doivent pas faire fondre les glaciers. Il veut donc imposer cette législation qui imposera que la totalité des voitures vendues en 2035 soit zéro émission électrique, hydrogène ou hybride. Alors les pays scandinaves ont pris aussi cette décision, Danemark, la Suède aussi. Ils veulent le faire eux dès 2030. En France, on parle plutôt de 2040. Voilà. Mais le débat n'a pas encore vraiment eu lieu sur la voiture. Ça
prend du temps.
Ça promet. Paul, la dernière histoire du jour.
Alors la semaine dernière, nous avions la chance d'être reçus à la Tour Eiffel pour une matinale exceptionnelle, sauf que nos hôtes se sont bien gardés de nous révéler une information essentielle que j'ai découverte en lisant le site Combini. Aujourd'hui, 24 septembre, les visiteurs de la Tour Eiffel vont pouvoir vivre pour la première fois la mise en bouteille de la première cuvée Tour Eiffel. Oui, un vin produit en partie au premier étage de la Dame de Fer.
Alors, j'ai pas vu de vigne. Hein,
ouais. Non, pas de vigne qui aurait poussé pendant des mois et des mois. Non, la société d'exploitation de la Tour Eiffel s'est tout simplement associée avec un domaine implanté à Versailles. Et il y a un an, ils ont installé un lieu de vinification au premier étage. Alors l'idée, c'est de faire découvrir un pan de la gastronomie française en valorisant la viticulture locale et les circuits courts. Parce qu'il y a aussi du vin qui se produit en région parisienne, ce qu'on ne sait pas
forcément. Il y a le vin de Montmartre aussi.
Absolument. Alors pour les amateurs, c'est un cépage élaboré à partir de Merlot, un vin frais et éclatant, disponible par contre en très petite quantité, seulement 300 bouteilles, et c'est un budget 80 euros la bouteille.
Ah oui.
Mais rassurez-vous, un nouveau cépage arrivera l'an prochain.
Toujours à consommer avec modération, mais
bien sûr.
On ne sait pas ce qu'il vaut. Il est bien noté sur les sites.
Bah, vu qu'il sort aujourd'hui, on ne sait pas.
Ah, voilà.
On va surveiller. Il sort des fûts aujourd'hui.
On peut faire plein de choses sur la Tour Eiffel. On pourrait mettre des ruches aussi, je ne sais pas, des abeilles, du miel.
Comme sur le toit de l'Opéra de Paris, par exemple.
C'est vrai.
On a plein d'idées.
Voilà.
Allez, on va rideau sur le pressing du jour. Merci à tous les deux. Merci. 5h23.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Direction les Pyrénées-Orientales, à présent pour les doigts dans l'assiette. Bonjour Alex Thora.
Bonjour Sébastien.
Bonjour, vous êtes notre éleveur de porc. On vous suit très régulièrement dans les doigts dans l'assiette. Comment ça va cette rentrée? Comment ça se passe?
Eh bien, écoutez, très bien. Le commerce se porte très très bien. Donc on s'en réjouit parce qu'on pensait avoir une petite baisse à partir de la rentrée. Puis finalement, ça se maintient bien.
Alors bon, dans les Pyrénées-Orientales, chez vous, vous n'êtes pas dans une zone trop affectée par les mesures sanitaires dont on parlait. Mais ça vous inquiète, cette situation autour du Covid, avec des bars et des restaurants qui commencent à refermer leurs portes?
Mais oui, c'est inquiétant, puisque nous, on a une clientèle quand même aussi de restaurants. Et puis, c'est vrai que de savoir qu'éventuellement, il y en a certains qui peuvent fermer, voire peut-être éventuellement tous aussi, nous inquiète quand même, puisqu'on a fait une belle saison. Mais faut pas trop se réjouir non plus parce que voilà, on peut passer un hiver très compliqué.
Ouais, parce que pour vous, ce sont des débouchés les restaurants pour vos produits.
Et oui, c'est beaucoup de débouchés. Chez nous, aux alentours de chez nous, on en sert entre 5 et 6. Tout dépend des saisons. Et c'est vrai que ça représente pas mal de chiffres d'affaires sur l'année. Et si on les perdait, ça ferait un sacré trou, quoi.
Alors, je rappelle que sur votre élevage porcin, vous élevez en plein air une centaine de bêtes. Élevage raisonné. Vous en êtes où en ce moment? Qu'est-ce qui vous occupe?
Mais en ce moment, on est en train de lancer les colis de Noël, justement, pour les collectivités.
D'accord, c'est déjà Noël.
Et les entreprises, voilà, pour les comités d'entreprise, pour les mairies, vous savez, pour les colis de fin d'année des personnes âgées. Voilà, mais il faut s'y prendre maintenant pour faire un projet, le présenter, puis après qu'ils puissent se délibérer pour avoir une réponse vers le mois de novembre.
Ah oui, faites-nous un peu saliver, qu'est-ce que vous mettez dans ces colis?
Alors, ça peut varier, hein. Pour les entreprises, c'est bien souvent un pâté, un plat cuisiné, une douceur, puis une bouteille de vin. Et puis après, pour les collectivités, c'est souvent un petit peu plus réduit, puisqu'il y a quand même pas mal de personnes âgées. Ben là, on reste sur du pâté, 2-3 douceurs et un plat cuisiné.
Vous avez des fidèles comme ça qui vous font des commandes régulièrement?
Oui, on a des entreprises qui jouent au jeu régulièrement pour leurs clients, puis bon, pour certaines collectivités aussi. Et puis en ce qui concerne les mairies, ils nous suivent toute l'année avec des plateaux charcuterie pour leur réception. Donc la tendance est à revenir vraiment sur le local, puisqu'il faut savoir que les entreprises et les mairies reçoivent quand même des catalogues de grandes distributions avec des colis tout faits. Mais c'est vrai que nous, on a voulu lancer ça et effectivement, on s'aperçoit que tout le monde est en demande de produits locaux.
Voilà, et c'est vrai que c'est toujours un beau cadeau, des bons produits d'un producteur. Vous êtes donc du côté de Prades, près de Perpignan. Merci Alex Thora, à bientôt dans Les Doigts dans l'Assiette.
Merci, au revoir.
À très vite sur Europe 1.
Si chacun de nous voit un peu moins de personnes par jour, fait un peu plus attention à la distance et au respect des gestes barrières, alors nous réussirons à vaincre ce virus.
Un effort demandé à tous les Français, mais à certains encore plus. Deux zones sont placées en alerte maximale, Aix-Marseille et la Guadeloupe. Les bars et les restaurants devront fermer dès samedi. Pour tous les départements en alerte, les fêtes, les anniversaires ou encore les mariages doivent être limités à moins de 30 personnes. Vous entendrez une future mariée qui n'a pas l'intention d'accepter cette consigne. Dans ce journal, la décision du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de fermer une école clandestine musulmane à Sevran, en Seine-Saint-Denis, mais officiellement pour raisons sanitaires, on vous expliquera pourquoi. Et puis le monde de la gastronomie endeuillé avec la mort de Pierre Troisgros, décès également d'une figure de la chanson française, Juliette Gréco.
Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a-t-il déclaré la guerre aux juges après l'ouverture d'une enquête sur le parquet financier? Les magistrats sont furieux, ils se mobilisent aujourd'hui en France. Dans 10 minutes, j'appelle Katia Dubreuil du syndicat de la magistrature. Et puis la France bouge avec Jérôme Lacroix, ses belles initiatives en région. Bienvenue à vous tous, 5h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On passe donc à la vitesse supérieure pour tenter d'éviter la propagation du virus. Hier soir, Olivier Véran a été clair, la situation continue à se dégrader. Le ministre de la Santé a donc détaillé de nouvelles mesures pour les 69 départements.
Des départements divisés en 3 zones, alerte, alerte renforcée et alerte maximale. Dans ces deux dernières, Anne Le Gall, les restrictions sont plus sévères.
Oui, alors l'alerte renforcée, pour faire simple, concerne des villes dans lesquelles le virus circule dangereusement, notamment chez des personnes âgées. 11 villes sont concernées, Paris et sa couronne, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, des villes qui s'ajoutent à celles de Bordeaux, Lyon et Nice, qui étaient déjà dans ce cas de figure depuis quelques jours. Et dans toutes ces villes, les règles sanitaires vont devenir plus strictes. Les bars fermeront au plus tard à 22h à partir de lundi. Les rassemblements y seront limités à 1000 personnes au lieu de 5000. Et toutes les salles de sport, les gymnases et les salles des fêtes resteront fermées pendant au moins 15 jours.
Et dans ces zones d'alerte renforcées, les restaurants échappent aux restrictions. En revanche, dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe, finies les sorties.
Oui, et c'est parce que la Guadeloupe et l'agglomération d'Aix-Marseille ont été placées, elles, en zone d'alerte maximale. C'est encore un cran au-dessus, car dans ces zones, la situation commence à devenir inquiétante dans les services de réanimation. Et pour enrayer la circulation du virus, il faut donc frapper plus fort. D'où la fermeture pure et simple des bars et restaurants et de certains lieux publics. D'où la protection des EHPAD, qui est également renforcée avec des visites sur rendez-vous et davantage de tests. Enfin, le télétravail doit être privilégié dans ces zones, autant de mesures qui s'appliqueront pendant au moins 2 semaines en concertation avec les préfets.
Anne Le Gall, voilà donc au moins 2 semaines de restrictions, notamment à Marseille. La maire Michèle Rubirola fait part de sa colère. Rien dans la situation sanitaire ne justifie cette annonce. Elle ajoute « Je n'accepte pas que les Marseillais soient victimes de décisions politiques que personne ne peut comprendre ». De son côté, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, parle d'une punition collective extrêmement dure pour l'économie locale.
Et parmi les secteurs qui vont particulièrement souffrir de ces nouvelles mesures, tout ce qui touche à l'événementiel. Dans les 69 départements en alerte, les rassemblements familiaux sont limités à 30 personnes.
Et ça vaut bien sûr pour les mariages. Très mauvaise nouvelle pour Lucie. Elle a prévu la cérémonie pour le 3 octobre dans la Drôme. 2 ans qu'avec son fiancé, elle organise tout pour le grand jour. Alors pas question de limiter sa liste d'invités.
C'est de la colère, c'est de l'injustice. Il est hors de question pour nous de choisir 30 invités. Ce sera non. Je fais déjà un premier choix à la mairie. Je ne pourrai pas avoir mes grands-parents qui vont entendre le oui qui m'engage à la mairie. Donc à un moment donné, je dis stop, j'ai eu assez de concessions. Ma salle me suit, mon photographe me suit et on se marie coûte que coûte à 58 personnes dans moins de 10 jours. J'entends parfaitement qu'il faille à un moment donné poser des limites. Mais moi aussi, à mon mariage, il y aura des gestes barrières. Moi aussi, il y aura du gel. Moi aussi, les gens seront masqués. Mais aujourd'hui, j'accepte pas de devoir payer le prix d'avoir eu des plages bondées pendant l'été, d'avoir eu des restaurants avec des terrasses bondées. Et pourquoi on m'interdit à moi aujourd'hui alors que je me suis privée pendant des mois? Eh bien aujourd'hui, moi, je choisis de prendre le risque. Tant pis si on est hors la loi, je vais pas me laisser gâcher mon mariage.
Voilà la colère de Lucie au micro de Romain Oquet.
Il est 5h35 sur Europe 1. Gérald Darmanin défend sa future loi sur les séparatismes. Coup de projecteur ce matin sur un nouveau phénomène, les écoles clandestines.
Oui, en réalité, ce ne sont pas des écoles, mais des associations qui prétendent enseigner. À Sevran, en Seine-Saint-Denis, le ministre de l'Intérieur a décidé de fermer une de ces écoles officiellement pour raisons sanitaires. Les précisions de Virginie Riva.
C'est le maire de Sevran qui signale la fausse école à la préfecture il y a un an, alerté par les va-et-vient de parents devant d'anciens hangars près du centre commercial de la ville. Effectivement, l'association Amana accueille un peu plus de 70 élèves, alors que la plupart sont déclarés officiellement par leurs parents en instruction à domicile. Deuxième problème, l'école n'est pas déclarée comme telle à l'éducation nationale. Pourtant, sur un site internet qui répertorie les écoles musulmanes, l'association se présente bien comme une école privée dispensant des enseignements de niveau maternel et primaire. La préfecture fait son enquête, le ministre Gérald Darmanin parle d'endoctrinement des enfants, comprendre endoctrinement sur fond d'islam politique. L'école clandestine est finalement fermée jeudi dernier, mais pour raison sanitaire. C'est le seul motif prévu aujourd'hui par la loi. Le local n'est pas aux normes de sécurité. Impossible d'invoquer des raisons de contenu des enseignements, car pour l'éducation nationale, cette école n'existe pas. Elle peut simplement faire des inspections au domicile des enfants pour évaluer leur niveau. C'est tout l'objectif de la future loi, avoir des outils pour contrer ces associations sur le fond. Un phénomène à suivre, car ces écoles se développent également sur Internet.
Virginie Riva.
Son nom restera associé au plat inventé en 1962, le fameux saumon à l'oseille. Pierre Troigros, légende de la gastronomie française, est mort hier à 92 ans.
3 macarons au guide Michelin depuis plus de 50 ans pour l'établissement créé avec son frère Jean. Le chef Guy Savoie avait fait l'un de ses tout premiers stages de cuisine avec Pierre Troigros dans les années 70. Il n'a jamais oublié sa rigueur et son respect des produits.
Je me souviens, moi j'étais donc responsable de la chambre froide des légumes. Et un jour, Pierre Troigros rentre dans la chambre froide et c'est vrai qu'elle n'était peut-être pas rangée parfaitement. Il m'a vidé toute la chambre froide dans les bras. J'avais juste le temps de poser les produits par terre et puis pour la ranger. Non, c'était une école magnifique de rigueur, de tout. Voilà, c'était toujours juste. Le respect des produits, donc le respect de ceux qui produisaient les produits. Et moi j'ai eu la chance de vivre tout ça en direct et en face de personnes comme Pierre Troigros. Et ça reste mon socle de formation. ce qui me permet de faire tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais aujourd'hui et tout ce que je ferai demain.
Guy Savoy au micro de Pierre Arbulot. Et puis la chanson française est également en deuil. Juliette Gréco, 60 ans de carrière, s'est éteinte hier chez elle à Ramatuelle. Elle avait 93 ans. Elle avait chanté Prévert, Boris Vian, Léo Ferré ou Serge Gainsbourg. Et le dernier à lui avoir écrit une chanson, c'était Miossec en 2015.
Et on va lui rendre hommage dans une dizaine de minutes. Ne manquez pas la partition d'Omblin Roche dédiée à Juliette Gréco ce matin à travers justement tous ces artistes qui ont écrit pour elle. C'était le journal d'Hélène Zelani. Il est 5h38. L'heure des courses avec vous, Thierry Léger. Quels sont vos pronostics pour le quintet ?
Direction l'hippodrome de Compiègne pour ce quintet qui va se courir en haie avec 16 sauteurs âgés de 5 à 12 ans. Deuxième de cette même épreuve l'an dernier, Saint-Anjou, le numéro 12, sera mon préféré. Il est encore mieux placé cette année puisqu'il portera 2 kilos de moins et comme il n'a jamais terminé plus loin qu'à la 5e place lors de ses 5 dernières sorties, il peut être considéré ici comme un coup sûr absolu à l'arrivée. On lui adjoindra son compagnon de boxe, Celtior, le numéro 6, désormais revenu à 100% de ses moyens. D'ailleurs, son entraîneur Laurent Vielle le croit capable de faire aussi bien que Saint-Anjou. Ces deux-là doivent donc impérativement figurer sur tous vos tickets de quintet. Ensuite, je vous recommande les numéros 4, Foudre Delta, et 5, Rock the Race, souvent vus à leur avantage dans cette catégorie, mais aussi le numéro 14, Dakota de Beaufait, certes absent depuis plus de 2 mois, mais qui a eu le privilège d'entretenir sa condition physique sur la plage durant tout l'été. Enfin, les numéros 15, Dinette de Ballon, 7, Dindin, et 11, Abibiline, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 12, 6, 4, 5, 14, 15, 7 et 11.
Merci Thierry Léger. On retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
J'accueille la première invitée de la matinale. Bonjour Katia Dubreuil.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Vous êtes la secrétaire générale du syndicat de la magistrature qui appelle à une mobilisation aujourd'hui des magistrats avec des rassemblements un peu partout en France. Le climat se tend avec votre ministre Éric Dupond-Moretti sur un certain nombre de questions. Vous dites que l'institution judiciaire est attaquée. Attaquée par son propre ministre ?
Oui, c'est-à-dire que quand on ne respecte pas des principes élémentaires, notamment en termes de conflit d'intérêts, c'est un gros problème pour l'institution judiciaire que notre ministre est censé représenter à sa place de ministre. Nous avons ici un grave problème institutionnel puisque le ministre de la Justice décide de saisir l'inspection générale de la justice d'une enquête administrative contre 3 magistrats. Il le fait en divulguant leur nom à la presse alors que les intéressés n'ont même pas encore reçu de notification officielle. Donc pour un ministre qui parlait beaucoup de présomption d'innocence par le passé, c'est assez étonnant. On a l'impression d'un ton assez vindicatif dans cette affaire.
Et alors pour préciser, c'est cette enquête qui est lancée contre 3 magistrats du parquet financier, dont son ancienne chef Eliane Houlette, dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy.
C'est pas des écoutes, c'est des fadettes, oui.
Et dans laquelle le parquet avait épluché les fadettes, les relevés téléphoniques de plusieurs avocats, dont Éric Dupond-Moretti lui-même.
Il est partie prenante, il avait déposé plainte contre le parquet national financier avant de devenir ministre, il a retiré sa plainte en devenant ministre, il n'en reste pas moins qu'il était une partie, en tout cas dans cette histoire, il se plaignait d'avoir été victime d'ajustements frauduleux du parquet national financier. Dans le rapport d'inspection qui lui a été remis en sa qualité de ministre et de décisionnaire, figurent effectivement des éléments de l'enquête pénale qui le concernaient, donc on voit qu'il est nommé sous le nom de avocat vite dans ce rapport d'inspection. C'est la même personne qui aujourd'hui, en qualité de ministre, décide de lancer une enquête administrative qui peut conduire à des poursuites disciplinaires contre ces magistrats, sachant qu'en qualité de garde des Sceaux, il est le dernier décisionnaire en matière de sanctions disciplinaires.
On l'entend, mais malgré tout, cette inspection, elle avait déjà été lancée par la ministre précédente, par Nicole Belloubet à l'époque. Les magistrats doivent malgré tout rendre des comptes, même si ce ministre est impliqué dans cette affaire.
Les magistrats doivent rendre des comptes, c'est bien évident. Et il y a plusieurs inspections administratives en cours contre plusieurs magistrats actuellement. En tant que syndicat, nous, on le sait, puisqu'on assiste les collègues. Je ne crois pas qu'on ait vu souvent que les magistrats manifestent parce qu'une inspection est menée contre certains magistrats. C'est simplement quand il y a une atteinte au principe que les magistrats peuvent effectivement avoir à se soulever et à dire qu'ils sont choqués par une décision anormale. Là, on est dans une situation qui est problématique à plusieurs égards. D'abord, cette première inspection, nous l'avions critiquée auprès de Mme Belloubet aussi quand elle a été lancée, parce qu'il s'agit d'une inspection qui portait sur une enquête pénale et non pas sur le fonctionnement d'un service. On ne peut pas demander à l'inspection qui dépend du pouvoir exécutif, du ministre, de venir...
Il n'y a pas de problème, selon vous, lorsque des magistrats du parquet épluchent les relevés téléphoniques de grands avocats. Ça ne pose pas de problème.
Alors, les FADET des avocats ne sont pas protégés par la loi actuellement. Le rapport d'inspection dit d'ailleurs qu'il n'y a rien d'illégal par rapport à l'enquête qui a été faite sur ces FADET.
Est-ce que ce n'est pas finalement la guerre qui est relancée entre avocats et magistrats ?
Mais écoutez, c'est absolument pas comme ça que nous, on analyse la situation. Encore une fois, on n'est pas sur des questions de guerre avocat-magistrat, on n'est pas sur la question de défense d'intérêts corporatistes, on est sur la défense de principes. Le principe, c'est que lorsqu'une enquête est menée, s'il y a des nullités dans cette enquête, c'est l'autorité judiciaire qui doit le dire à travers des voies de recours. Actuellement, il n'existe pas de voie de recours pour l'enquête préliminaire. Qu'est-ce qui prévoit qu'il n'y ait pas de voie de recours ? C'est la loi, ce n'est pas les magistrats. Les magistrats ne font pas la loi, donc.
Il y a cet autre épisode, encore plus récent, qui a aussi attiré les foudres des magistrats. C'est la nomination d'une avocate à la tête de l'École nationale de la magistrature. Là aussi, pour vous, c'est une ligne rouge ?
Nous n'avons absolument pas critiqué la nomination d'une avocate à la tête de l'École nationale de la magistrature. Bien sûr que dans le discours ambiant, on voudrait que les magistrats se plaignent de ça pour pouvoir dire qu'ils sont corporatistes, mais ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, il est du discours du ministre qui, à l'occasion de l'annonce de cette nomination, a une fois de plus utilisé des termes extrêmement négatifs pour parler des magistrats, de la magistrature, de l'école, de l'enseignement qui y existe. On entend depuis un certain nombre de gens qui nous parlent de l'école, apparemment ils n'y ont jamais mis les pieds ou ils n'ont jamais regardé les programmes en disant que c'est une école fermée, que ce sont les magistrats entre eux, alors que dans cette école, il y a des avocats qui viennent avec les magistrats pour des formations, il y a tout un tas d'autres professionnels qui interviennent pour ouvrir les magistrats sur plein de problématiques, des psychiatres, des experts de toutes sortes, des gens de la société civile. Donc c'est totalement faux ce qu'on dit sur l'école et le ministre a profité de ce moment, de cette annonce, pour une fois de plus porter une appréciation extrêmement négative sur cette école.
Rompre avec les traditions surannées et l'entre-soi. Et
on voudrait bien savoir de quoi il parle le ministre, parce que là on a plutôt l'impression qu'il est dans un discours à la Trump dans lequel il faut surfer sur effectivement parfois la mauvaise image de la magistrature dans le grand public, le fait que la justice est mal comprise, mal connue, le fait qu'effectivement il y aurait des réformes à faire pour que cette justice fonctionne mieux et que donc à la mauvaise presse auprès des gens. Mais nous ne demandons que ça, de pouvoir fonctionner correctement. On ne peut pas sans arrêt créer des lois qui restreignent les droits des personnes, qui demandent aux juges de juger plus vite et sans entendre les justiciables, sans audience, par visio, etc. Ensuite, constater que les gens ne sont pas satisfaits de leur justice parce qu'elle fonctionne mal, et ensuite dire les magistrats devraient sortir de l'entre-soi, ils devraient avoir la culture du contradictoire, ils devraient avoir la culture des droits de la défense, mais nous ne demandons que ça.
Et on entend ce matin votre coup de gueule, Katia Dubreuil, secrétaire générale du syndicat de la magistrature, ce coup de gueule qui va donc s'exprimer dans la rue aujourd'hui par les magistrats. Merci d'avoir été avec nous ce matin, bonne journée à vous.
Merci à vous.
Europe 1.
Il est 6h moins le quart sur Europe 1, l'heure de mettre en lumière ceux qui font bouger la France. Avec vous Jérôme Lacroix, où est-ce qu'on va ce matin ?
Direction la Haute-Garonne, je vous raconte dans les campagnes ces anges gardiens qui toutes les nuits préservent la tranquillité, le sommeil des propriétaires de chevaux épuisés. Ils assurent bénévolement la sécurité des bêtes face à la vague d'actes barbares en ce moment dans plusieurs régions de France.
Voilà, ces actes de solidarité qu'on vous raconte tous les matins avec Jérôme Lacroix. La France bouge dans un instant, à tout de suite.
Europe 1. Sébastien Krebs.
Il est 5h47 sur Europe 1. Des mesures choc annoncées hier soir par Olivier Véran face à la propagation du Covid. Dans l'agglomération de Marseille et en Guadeloupe, zone d'alerte maximale, les bars et restaurants devront fermer totalement à partir de samedi. 11 autres métropoles sont placées en zone d'alerte renforcée. Paris, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble et Montpellier qui rejoignent Bordeaux, Lyon et Nice. Les bars la fermeront à 22h au plus tard. Une concertation est prévue avec les préfets. À Washington, premier jour d'hommage officiel à la juge Ruth Bader Ginsburg, dont le cercueil est exposé à la Cour suprême. La Maison-Blanche annonce que Donald Trump s'y rendra dans la journée. Et puis les suites du match OM-PSG, le joueur parisien Angel Di Maria est suspendu 4 matchs pour avoir craché en direction du Marseillais Alvaro González.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Allez, c'est l'heure de la France bouge, l'heure de mettre en lumière ces bonnes volontés des Français qui au quotidien donnent de leur temps pour les autres. Ce matin, Jérôme Lacroix, une mission de haute importance.
Soutenir autant que possible et soulager les angoisses de ces propriétaires de chevaux. Parce qu'on vous en parle sur Europe 1, la France connaît une inexpliquée vague d'actes de cruauté envers ces animaux. Il y a notamment eu, samedi dernier, une ponette retrouvée morte à Loupiac dans le Tarn, possiblement tuée par balle. Une enquête est ouverte. Alors en Occitanie,
Psychose chez les propriétaires de chevaux qui n'en dorment plus. C'est ainsi que dans le département voisin de Haute-Garonne, un groupe de citoyens décide de leur venir en aide.
Alors comment ils font pour leur venir en aide concrètement ?
Une présence, une surveillance, toutes les nuits, et ils font cela bénévolement. Tout est parti d'un groupe Facebook créé par deux personnes, Charlotte Cachoir et Cédric Fargue. Via ce groupe Facebook, ils ont recruté, entre guillemets, d'autres volontaires qui se proposent de venir effectuer des gardes de 19h à 8h le lendemain matin, entre 2 et 6 personnes mobilisées en fonction de la taille de la propriété. C'est une présence imposante parce qu'ils viennent souvent en 4x4. Ils se positionnent à des endroits stratégiques, un véhicule au début du chemin de la propriété, un autre véhicule à l'autre bout, un troisième tout près des groupes de chevaux ou de poneys. Ils doivent d'abord compter les animaux pour être sûr qu'aucun ne manque en fin de nuit. Et s'ils aperçoivent quoi que ce soit, ils appellent les gendarmes, ces derniers, qui sont prévenus de la présence des bénévoles pour éviter tout risque de confusion.
Alors ça fait maintenant un certain temps qu'ils veillent toutes les nuits et qu'ils soulagent donc les propriétaires.
On a enfin pu dormir, raconte l'une de ces propriétaires à la Dépêche du Midi. C'est un soutien physique mais aussi psychologique de ces bénévoles qui sont de plus en plus sollicités dans la région.
Voilà, belle initiative du côté donc de la Haute-Garonne.
Haute-Garonne, absolument.
Dans la Haute-Garonne, c'est vrai que c'est traumatisant toutes ces attaques de chevaux pour tous ces exploitants de haras. Mmh. Merci, Jérôme Lacroix. La France bouge tous les matins. On va regarder les réseaux sociaux maintenant avec vous, Paul Lassen. Alors beaucoup de réactions à l'intervention d'Olivier Véran hier et aux annonces sanitaires.
Oui, et les internautes y vont franco pour commenter ces mesures. D'un côté, on a les déçus, les énervés. Jérémy, par exemple, eh bien, il ne comprend pas la décision de fermer les bars et les restaurants à Marseille. On a laissé tous les touristes de France venir se détendre et s'amuser cet été et forcément propager le virus plus qu'ailleurs. Un sentiment d'inégalité répandu sur Twitter. Le Covid ne se déplace ni dans le métro, ni dans les écoles, ni au travail, juste les soirs et week-ends dans la sphère sociale. Merci, monsieur le ministre, écrit Amine. Même constat pour Takou, un peu plus caustique. Un virus qui ne te vise qu'en dehors de tes heures de travail, que dans les lieux où tu t'amuses et où tu peux échanger avec les autres, bah ça ressemble quand même beaucoup à un virus évadé d'un labo du MEDEF. Et il y a aussi ceux qui se félicitent de ces restrictions parce qu'il y en a dans les villes les plus touchées. Enfin, des mesures claires, au moins on ne tergiverse pas. Tant mieux si ça permet de ne pas reconfiner complètement, relativise cet internaute. Enfin, une autre fermeture qui fait beaucoup réagir, celle des piscines et des salles de sport. Beaucoup de gens sur Twitter se plaignent de ne plus pouvoir aller faire du sport, se dépenser librement malgré des abonnements souvent chers payés. Seul ce tweetos y voit ironiquement un avantage. Ça va être le grand retour des joggeurs du confinement.
Ah oui, il n'y a plus que ça. Hein.
Oui,
il va falloir s'y mettre. Beaucoup de réactions et des réactions chez les élus aussi, hein, du côté de Marseille, qui dénoncent une punition, qui estiment qu'il n'y a pas eu suffisamment de concertation et que ça leur est tombé dessus un peu hier, ces annonces pour Marseille. On va y revenir très largement ce matin dans les journaux d'Europe 1. Les réseaux sociaux tous les matins avec Paul Lassen. Merci, à demain.
Merci.
On de la traconte tous les jours à 14h sur Europe 1. Vous retrouvez l'histoire du jour dès maintenant en podcast, vous le savez, comme chaque matin. L'histoire du jour, Chirac, son enfance, ses amours, ses voyages, les fiançailles avec Bernadette, l'entrée à l'ENA aussi, l'histoire de la jeunesse de Jacques Chirac dans On de la traconte. Vous retrouvez le récit dès maintenant sur Europe 1.fr.
T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma jolie môme.
Jolie môme, la voix de Juliette Gréco qui s'est éteinte à 93 ans. Hier, la muse de Saint-Germain-des-Prés, c'est à suivre dans la partition d'Omblin Roche. À tout de suite.
Europe 1.
Il est 5h54 et nous ouvrons la partition d'Omblin Roche chaque matin. L'histoire derrière une chanson ou un artiste. Partition que nous avons décidé de dédier ce matin à celle qui nous a quittés hier, Juliette Gréco. Une vie, une carrière marquée par des rencontres avec des hommes parmi les plus grands. Omblin, ils l'ont inspiré, ils ont imprégné son répertoire et parfois même un peu plus.
Juliette Gréco, séduisante, scandaleuse, mais toujours avec retenue dans le Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre. Elle côtoie Boris Vian, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, qui l'invite chez lui pour qu'elle choisisse des textes de chansons. Elle se fait un nom avant de choisir une carrière. Chanteuse, peut-être, oui, elle sera chanteuse. Jacques Prévert avait écrit « Je suis comme je suis » pour Arletty. Eh bien, elle sera pour Gréco.
Je suis faite pour te lèvres et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont rouges, mes dents trop.
trop bien rangée, mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire?
Alors, lorsque Juliette Gréco rencontre Jacques Brel, il est encore inconnu.
Oui, je suis aussi la seule pour qui il a écrit des chansons. Elle est fière. Un jour de l'hiver 1954, il arrive chez elle. Il est maigre, des yeux comme du charbon de bois, un peu sauvage, avec une guitare au bout d'un bras. Elle est émerveillée lorsqu'il se met à chanter tous les textes qu'il lui présente. Elle n'en veut pas. Vous allez les chanter tout seul, lui dit-elle. J'en prends une qui sera difficile à défendre.
Un jour, le diable vint sur terre. Le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts.
Juliette Gréco a toujours choisi elle-même ses chansons.
Et elle ne se privait pas à demander. En 1960, elle débarque dans l'appartement de Léo Ferré et ne se doute pas qu'il va lui confier la chanson qui sera son plus grand succès sur scène. Juliette Gréco n'est pas dupe. Elle comprend très bien les sous-entendus de Jolie Môme. Oui, c'est une chanson misogyne, mais je fais en sorte qu'elle ne le soit pas. Elle évoque le corps féminin. Son corps assume son côté provocant et se montre bien plus explicite que Léo Ferré. Lui n'osera jamais.
T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme.
Une jolie môme qui, ça y est, fait tourner les têtes.
Oui, celle du trompettiste américain Miles Davis, à qui elle fait découvrir la liberté dans les rues de Paris. Elle crache dans la main du serveur qui refuse de leur donner une table. Un amour intense, mais fugitif et interdit à cause du racisme.
Et avec Serge Gainsbourg, la relation est platonique, mais profonde.
Et cette soirée, lors de l'été 1962, est mémorable. Ils boivent du champagne, écoutent des disques. Juliette Gréco danse et le lendemain, Gainsbourg lui offre la javanaise.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions le temps d'une à votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous, nous aimions d'une chanson.
La javanaise, écrite pour Juliette Gréco par Serge Gainsbourg. Juliette Gréco, donc, qui s'est éteinte à Aramatuel. Dans le Var, elle avait 93 ans. L'hommage ce matin dans la partition d'Ambline Roche. Merci Ambline.
Merci.
5h59, l'heure de faire un point avec Laurent Cabrol sur la météo.
Eh bien, c'est une journée au gros temps. Gros temps parce qu'il y aura pratiquement tout, des orages, du vent, de la pluie et bien sûr de gros nuages. Je parlerai du vent tout à l'heure parce qu'il est exceptionnel. Je parlerai des gros nuages et des orages également. Je voulais simplement dire que les régions les plus touchées seront la Normandie, la région parisienne, le Nord, Champagne-Ardenne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, le Limousin, l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, la Côte d'Azur, la Corse et la Vallée du Rhône. Vous voyez que c'est une grande partie de la France sous un ciel qui sera cet après-midi très mouvementé, beaucoup plus que ce matin où le temps est plutôt calme dans ces contrées. Mais ne vous fiez pas à ce calme. La matinée humide donc, et ensuite des pluies violentes, alors que des régions un petit peu à l'abri seront comme, on va les situer là, en Bretagne, Midi-Pyrénées, littoral méditerranéen, où là nous aurons des petites pluies, températures entre 16 et 20 degrés.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Si vous ouvrez l'œil, on se réveille ensemble et on s'informe avec Sophie Echen. Bonjour Sophie.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h.
partir de samedi en territoire dit en alerte maximale. Guadeloupe et la métropole d'Aix-Marseille. Fermeture totale des bars et des restaurants.
Le ministre de la Santé durcit les règles dans les zones dites d'alerte maximale. Il y a urgence, dit Olivier Véran, et il faut frapper fort pour lutter contre l'épidémie. Des mesures qui ont du mal à passer dans les zones concernées, dans la métropole d'Aix-Marseille. Les élus poussent un coup de gueule contre le gouvernement, dénonçant même un quasi-reconfinement. Coup de gueule également des professionnels de la restauration, une nouvelle fois lésés par les annonces du ministre de la Santé. Dans ce journal également, les failles des services de renseignement discutées au procès des attentats de janvier 2015 à partir d'aujourd'hui. Le boom des vêtements non genrés, fini le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Et puis l'hommage de Maxime Le Forestier à la muse de Saint-Germain-des-Prés, Juliette Gréco, qui s'en est allée hier à l'âge de 93 ans.
Vous parliez de ces vêtements non genrés. Eh bien, dans 10 minutes, mon invité inattendu est une voix qui incarne cette nouvelle génération, cette génération qui veut se détacher des codes, qui refuse d'être mis dans une case garçon ou fille. On parle du genre, des vêtements à l'école aussi, avec ce chanteur de 21 ans qui représenta la France à l'Eurovision. Il est avec nous à 6h10. Et puis notre environnement, notre planète, avec Fanny Agostini. Bon réveil à tous, il est 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
11 métropoles en zone d'alerte renforcée et 2 zones en rouge écarlate. Hier soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dévoilé la nouvelle cartographie de la situation sanitaire en France. Situation critique à Aix-Marseille et en Guadeloupe, qui sont donc classées en zone d'alerte maximale. Le taux de récurrence est de 250 cas positifs pour 100 000 habitants dans ces deux régions. Alors Anne Le Gall, les mesures sont renforcées et le ministre s'est montré plutôt alarmant.
Oui, dans cette zone d'alerte maximale, ce qui inquiète, c'est la situation particulièrement tendue dans les hôpitaux, avec un tiers des lits de réanimation déjà occupés par des patients Covid et un virus qui circule très activement, notamment chez les personnes âgées. Dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe, il devient donc urgent de frapper fort pour contrôler l'épidémie et protéger la capacité d'accueil des hôpitaux. Dans ces zones, a expliqué Olivier Véran, des règles sanitaires plus strictes vont donc s'appliquer dès samedi.
Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants. De la fermeture de l'ensemble des établissements recevant du public, sauf s'il existe un protocole sanitaire strict déjà mis en place. À ce titre, les lieux culturels, comme les théâtres, les musées, les cinémas, ne sont donc pas concernés par les mesures de fermeture. Et par ailleurs, nous incitons au maximum au télétravail pour l'ensemble des activités pour lesquelles c'est possible dans ces territoires.
Ces mesures s'appliqueront pour 2 semaines, en accord avec le préfet. Et en cas d'échec, ce sera retour à l'état d'urgence sanitaire, a prévenu le ministre. Mais il n'a pas précisé les restrictions qui seraient alors appliquées.
Anne Le Gall.
Vous venez de l'entendre, la fermeture totale des bars et des restaurants sera effective dans la métropole d'Aix-Marseille à partir de samedi. Sur place, les élus craignent une véritable catastrophe économique et font front commun contre les décisions du gouvernement. Nathalie Chevance.
C'est une très grosse colère qui secoue la métropole d'Aix-Marseille. Punition collective, juge Renaud Muselier, le président LR de la région, très remonté. Le gouvernement tape sur les restaurants et l'économie locale, dit-il. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Et surtout pas de cette manière, surenchérit la ville de Marseille, sans concertation. Samia Ghali, deuxième adjointe.
À chaque fois que le ministre de la Santé va parler maintenant, il va faire une conférence de presse, on va trembler, en se disant qu'est-ce qu'il va nous mettre sur la tête encore une fois de plus. Et de manière unilatérale, sans même discuter. Les Marseillais sont victimes finalement de décisions politiques que personne ne peut comprendre. À un moment, ça suffit, trop c'est trop.
Car pour la mairie, la situation sanitaire ne justifie pas de telles mesures. Les dépistages massifs et les distributions de masques gratuits par milliers commencent à porter leurs fruits. Même incompréhension dans les petites communes où l'on dénonce un quasi-reconfinement. Georges Christiani, président des maires des Bouches-du-Rhône.
C'est la vie qui s'arrête, c'est encore la vie, alors que nous sommes touchés que par quelques cas. De façon sporadique, c'est encore une décision la plus jacobine qui soit. C'est inadmissible. C'est la mort d'un village.
Des élus qui attendent maintenant des compensations financières de l'État pour que l'économie locale ne sombre pas. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Voilà, bars et restaurants totalement fermés à Marseille et en Guadeloupe, à Paris et dans la plupart des grandes villes françaises placées en zone d'alerte renforcée. Les établissements devront fermer leurs portes à 22h. Le secteur de la restauration est l'un des grands perdants des annonces du ministre de la Santé. Ce sont des mesures hypocrites, dénonce Hubert Jean, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
Laissez croire aux citoyens que c'est chez nous qu'on ramasse la mort, c'est purement pas entendable pour moi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont plus venir et puis ils vont déplacer le problème d'un endroit où il y a des protocoles, chez nous, dans des endroits où il n'y a pas de protocole. Donc ça va être la fête à Neuneux et il va se passer des choses et ça va faire compliquer le problème. Et en même temps, vous achevez des entreprises qui n'avaient pas besoin. Ceux qui étaient hyper fragiles, aujourd'hui, ben, ça va les achever. C'est terrible ça.
Le président de l'UMI joint pour Europe 1 par Élise Dangean.
Il est 6h05 sur Europe 1. Le procès des attentats de janvier 2015 entre dans une nouvelle phase à partir d'aujourd'hui. Phase consacrée à l'examen du passé des frères Kouachi et d'Amédi Coulibaly.
Des enquêteurs vont expliquer le parcours des trois terroristes, la genèse de leur radicalisation et tous les signes qui ont alerté les services de renseignement. Services qui avaient pourtant arrêté de surveiller les frères Kouachi, Chloé Triomphe.
Oui, fin 2013 pour l'un des frères Kouachi et à l'été 2014 pour le second, les écoutes téléphoniques ont pris fin. Mi-2014, c'est à peine 6 mois avant les attentats. Pour justifier ce que certains considéraient déjà comme un raté, la place Beauvau avait fait savoir à l'époque que rien ne laissait penser qu'il préparait un attentat, rien qui justifiait en tout cas une surveillance physique. Et pourtant, les frères Kouachi avaient quelques années plus tôt fait figure de cible prioritaire des services, notamment pour leur lien étroit avec tout ce que le djihadisme francophone compte de plus dangereux, Jamel Begal, vétéran du GIA algérien, proche d'Al-Qaïda, mais aussi Peter Sherif, devenu depuis un cadre d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Quant à Amédi Coulibaly, dont la connexion avait pourtant été établie avec les frères Kouachi et leur environnement, il avait tout simplement été classé dans la catégorie des délinquants de droit commun.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Europe 1.
Les vêtements non genrés, les vêtements unisexes connaissent de plus en plus de succès. Les marques et les boutiques sont en train de prendre le pli. C'est à suivre dans votre journal de 6h.
Et puis les souvenirs de Maxime Le Forestier qui rend hommage à Juliette Gréco, figure emblématique de la chanson française disparue il y a 93 ans.
A tout de suite sur Europe 1, 6h07.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Il est 6h09 sur Europe 1, votre journal continue avec Sophie Echen.
Casser les codes vestimentaires féminins ou masculins. Et si c'était le moyen d'accéder à la demande du ministre de l'Éducation qui estimait qu'il fallait s'habiller de façon républicaine en début de semaine. De plus en plus de jeunes se tournent vers la mode non genrée, des vêtements qui peuvent être portés par tous. Et les marques surfent déjà sur la tendance. Johanna Chabas.
Ici, c'est unisexe. Des panneaux noirs et blancs l'indiquent un peu partout dans cette boutique Citadium. Pas de rayon homme-femme, des t-shirts unicolores, des baskets blanches, des joggings. Garçons et filles peuvent choisir la même chose. Pour Jeanne, ce concept a de l'avenir.
Rassembler les gens à travers la mode, tout ça, je trouve ça hyper important et ça a un enjeu de ouf sur l'égalité homme-femme en termes de fringues, quoi.
De plus en plus d'enseignes comme Adidas ou Lacoste intègrent cette mode à leur collection. Margot a, elle, lancé sa marque non-genrée Unilette il y a 2 ans. Elle a depuis doublé son chiffre d'affaires.
Je voulais casser en fait la barrière psychologique à aller dans un rayon homme ou aller dans un rayon femme. Là, en fait, on se pose pas la question, c'est un vêtement, point barre.
Mais elle l'admet, la plupart des vêtements unisexes avec des t-shirts et des pantalons reprennent les codes masculin, pas de jupe ou de robe pour les garçons. Un regret pour Samuel.
Ça ressemble à du masculin parce que justement les garçons s'habillent de manière plus basique. Jogging, jeans, t-shirt ou pull. Je pense que les filles peuvent s'habiller de manière différente, mais pour les garçons c'est plus compliqué. Si moi demain je sors en mettant une jupe, il y a toujours le regard des autres.
Selon lui, il faudra encore du temps pour arriver à une parfaite égalité vestimentaire entre les genres.
Un reportage signé Johanna Chabas.
Et on en parle de ces vêtements non genrés dans un instant, juste après le journal avec mon invité inattendu. La disparition d'une grande dame de la chanson française, Juliette Gréco, est morte hier à 93 ans.
L'égérie du Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre aura cumulé 70 ans de carrière de chanteuse, d'actrice, d'interprète. Maxime Le Forestier se souvient notamment d'une artiste pleine de charme.
C'était avant tout une femme pleine de charme. C'était une amoureuse du texte. Le timbre, on s'en foutait un peu. C'était la façon d'articuler les mots. C'était une diseuse, vous voyez ? Plus qu'une chanteuse. Puis elle avait aussi une éthique. Moi, je me souviens d'une phrase qu'elle m'a dite une fois. Quand on chante un auteur, il faut le servir et non pas s'en servir. C'était tout à fait Gréco, ça. Aussi la première à avoir fait de la chirurgie esthétique. Et c'était pas courant à l'époque. Elle avait un joli nez pointu, elle a voulu raccourcir. Et puis ce charme invraisemblable qu'elle aura gardé jusqu'à sa mort, quoi. C'était une chatte, quoi, une charmeuse magnifique.
Voilà l'hommage de Maxime Le Forestier à Juliette Gréco, témoignage recueilli par Diane Chenouda.
Juliette Gréco qu'on réécoute ce matin sur Europe 1. C'était le journal de 6h signé Sophie Echen. Il est 6h12.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
À la une, Jérôme Lacroix, des sueurs froides à Roland-Garros.
1000 spectateurs maximum pour les grands événements sportifs dans les zones d'alerte renforcées à Nancy hier soir. Le tournoi de tennis démarre dimanche à Paris et devrait donc être concerné. Les organisateurs espéraient hier encore au moins 5000 personnes par jour. Quel public cette année à Roland-Garros ? On posera la question à Guy Forget, patron du tournoi, invité d'Europe 1 dans le journal de 8h. Depuis lundi, les cours au gradin vide vivent au rythme des qualifications. Climat pesant, dixit de nombreux joueurs dû au strict protocole sanitaire. Ils vivent dans l'angoisse d'un test qui se révélerait positif, synonyme d'exclusion du tournoi. Le français Enzo Cuoco, 194e mondial, le raconte à Corinne Boulou.
C'est vrai que ça fait peur. Le pire, c'est que moi, ce qui me perturbe le plus, c'est que en fonction des endroits où on se fait tester, les tests sont complètement différents. On a presque l'impression de jouer à pile ou face.
Le foot et Angel Di Maria, suspendu 4 matchs de Ligue 1 par la commission de discipline pour un crachat en direction du Marseillais Alvaro lors du dernier PSG-OM. Alvaro justement qui sera fixé comme Neymar mercredi prochain concernant les éventuelles insultes racistes.
Autre affaire, celle qui secoue le rugby. Bernard Laporte est ressorti libre de garde à vue hier soir.
Le président de la Fédération française auditionné depuis mardi matin comme l'homme d'affaires Moed Altrad. Le parquet national financier s'intéresse aux relations entre les deux hommes dans le financement récent du rugby français. Enquête ouverte en 2017. Et justement, l'avocat de Bernard Laporte, Jean-Pierre Versini-Campinki, s'étonne de ce calendrier qu'il juge tardif. Il donne les détails des auditions.
On a tourné autour des sujets, le sponsoring, les voyages payés par le groupe Altrad dans le cadre du sponsoring en Géorgie, celui payé à la Fédération en Mongolie. Tout ça, c'est connu depuis 3 ans. Alors s'il y avait un vrai scandale, on n'aurait peut-être pas attendu 2 ans entiers, 24 mois pour venir interroger tous ces gens.
Le parquet national financier doit maintenant décider s'il poursuit les investigations, s'il ouvre une information judiciaire ou s'il classe l'affaire. Le handball est un de chute d'entrée pour le Paris Saint-Germain en phase de groupe de la Ligue des Champions. Défaite à domicile de Nicolas Karabatic et ses coéquipiers 29-28 face aux Allemands de Flensbourg.
L'histoire du jour.
L'histoire du footballeur professionnel le plus vieux du monde. Je vous présente Kazuyoshi Miura, japonais, 53 ans. Il a joué un match hier en G-League, la première division japonaise. Il était même titulaire avec son équipe Yokohama. C'est une vraie star dans son pays. Il assure vouloir jouer jusqu'à ses 60 ans.
Non mais c'est l'hygiène de vie ça.
Absolument.
Ça compte beaucoup au Japon. Le journal des sports, tous les matins après le journal de 6h avec Jérôme Lacroix. Merci Jérôme, à demain.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1. Il est 6h15 et c'est l'heure de découvrir qui est l'invité inattendu du 5-7 ce matin. Il incarne une nouvelle génération qui se détache des codes, qui refuse d'être catégorisée garçon-fille. Faut-il gommer le genre ? On en parlait pour les vêtements à l'instant et on continue d'en parler avec Bilal Hassani ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, les auditeurs se souviennent de vous. Vous avez 21 ans, vous avez représenté la France à l'Eurovision il y a quelques années. On va parler donc du genre et de ces vêtements unisexes. Vous lancez d'ailleurs une ligne de vêtements, vous nous direz aussi ce que vous pensez de tout ce débat autour de la tenue correcte à l'école, tenue républicaine comme dit le ministre. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
6h18, l'invité inattendu du 5-7 ce matin est donc le chanteur Bilal Hassani avec nous. Bilal Hassani, 21 ans, un garçon qui casse les codes du genre et cela fait débat aujourd'hui sur un certain nombre de choses. On parlait des jouets, des vêtements aussi, non-genrés, unisexes. C'est votre démarche Bilal Hassani puisque vous lancez une ligne de vêtements. Pour vous, il faut sortir de ces codes, de ces différences garçon-fille.
Moi, je suis contre le genre dans absolument tout. Je pense qu'on devrait arrêter de genrer, que ce soit les habits et que ce soit les couleurs. On nous a habitués à genrer absolument tout et c'est pas du tout nécessaire. Ça crée une pression que moi-même j'ai vécue quand j'allais dans une boutique de prêt-à-porter et que j'allais trouver un jean plus sympa dans le côté femme et que j'allais avoir l'impression que j'étais interdit d'aller le prendre, d'aller l'essayer et que je savais que j'allais recevoir des regards et etc. J'essaie d'être en tout cas quelqu'un d'assez solaire et de plutôt me concentrer sur le côté positif de mon émancipation et de la personne que je suis aujourd'hui. Mais évidemment, j'ai vécu des choses assez désolantes pendant mon adolescence et même pendant mon enfance. À ce moment-là, je ne comprenais pas du tout pourquoi ça pouvait poser problème que j'ai envie d'acheter une poupée au lieu d'un pirate ou d'une figurine de super-héros ou de voiture. Et c'est ça qui me désole aujourd'hui. Je pense que maintenant, il faut qu'on passe à l'étape suivante. qui est d'arrêter de genrer les choses.
Et vous parliez des jouets, le gouvernement fait le bilan justement aujourd'hui d'une charte qui a été lancée l'année dernière pour aller vers des jouets qui ne seraient plus genrés. On finit le bleu pour les garçons et le rose pour les filles. Qu'est-ce que vous pensez, Bilal Hassani, de tout ce débat autour de la tenue vestimentaire des adolescentes au collège, au lycée, tenue correcte, tenue républicaine, dit Jean-Michel Blanquer?
De mon point de vue, j'ai un petit peu suivi ce qui s'est passé, notamment le 14 septembre, quand il y a eu un mouvement qui a été lancé sur les réseaux sociaux par des jeunes en fait de collège et de lycée qui se sont dit on va tous aller, enfin les filles surtout, aller en débardeur à l'école. Et moi, j'avais soutenu en fait ce mouvement parce que si une jeune fille a envie de porter un débardeur, ça ne devrait pas poser problème. Et je pense qu'il y a un souci dans ce débat parce qu'on ne va pas demander la même exigence à un garçon, je crois, qu'à une fille. Alors, je suis évidemment contre l'hypersexualisation, mais je pense qu'au lieu de forcer une jeune fille qui a très très chaud parce qu'il fait 38 degrés à mettre un débardeur, qui ne sait pas empêcher l'hypersexualisation. Je pense que c'est dans l'éducation à l'école et à la maison qu'on doit apprendre à l'opposé aux jeunes garçons de ne pas sexualiser un débardeur sur une jeune fille. C'est à la mode, c'est joli, et pour moi, en tout cas, pas du tout vulgaire ou inapproprié pour les cours.
Si je vous suis bien, ce n'est pas la tenue qui est sexualisée, c'est le regard des garçons.
C'est le regard, exactement.
Après, on va pas se mentir, Bilal Hassani, ces jeunes, lorsqu'ils vont faire leur premier pas en entreprise, lorsqu'ils vont arriver en stage, ils vont bien devoir se conformer à un certain type de tenue plus sobre. Est-ce qu'il faut pas leur apprendre ça aussi à l'école ?
Moi, je vais à l'encontre de ça en me disant que ce serait cool, du coup, qu'on puisse faire le chemin inverse, qu'on puisse les laisser être libres d'exister comme ils ont envie, que ce soit pendant les études et dans la vie adulte et partout en fait. Et que plutôt tout le monde devrait s'adapter un petit peu au style vestimentaire de n'importe qui. C'est-à-dire que si quelqu'un veut porter du rose et avoir les cheveux bleus et des tatouages par exemple, qui ne devraient pas être interdits d'être comme ça, que ce soit au lycée ou dans la vie professionnelle.
Ouais. Bon, après il y a le principe de réalité. Hein. Dans les faits, c'est quand même compliqué d'aller à un entretien d'embauche avec des cheveux bleus.
Moi, je trouve ça désolant maintenant. C'est vrai que ce sont des faits, mais si on veut parler de mon opinion ici aujourd'hui, c'est que c'est des choses qui devraient changer. Si je peux m'adresser aux parents, je voudrais leur dire que je peux comprendre par rapport au choc un petit peu des cultures et des générations que ça soit un petit peu troublant, mais qu'il faut les laisser s'épanouir. Quand on a un enfant, on l'aime inconditionnellement et on veut qu'il soit heureux.
Bilal Hassani, beaucoup de chemin parcouru depuis l'Eurovision, c'était en 2019, votre chanson Roi à l'époque. Et un nouvel album aujourd'hui, Contre Soirée, avec cette chanson Tom, dans laquelle vous parlez du harcèlement scolaire dont vous avez vous-même souffert, vous le mentionniez. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu ce matin, Bilal Hassani. Très bonne journée.
Merci beaucoup.
Tom, il danse comme si rien ne pouvait l'atteindre. De l'élégance, un sourire qu'on ne peut plus éteindre. J'avoue, ça fait du bien. Car Tom ne parle pas. Tom est du genre à se cacher depuis gamin. Toujours derrière et pourtant le cœur sur la main.
Nouveau single donc de Bilal Hassani, Tom, 6h22.
Europe 1. Sébastien Krebs.
L'essentiel de l'actualité en ce jeudi matin est cette nouvelle carte de France de l'épidémie. Nouvelles restrictions dans les grandes villes pour lutter contre le virus à Paris, Lyon, Bordeaux ou encore Toulouse. Les rassemblements seront limités à 1000 personnes. Les bars devront fermer à 22h. Et dans la métropole d'Aix-Marseille, tous ces bars et restaurants resteront totalement fermé à partir de samedi. La zone est classée en alerte maximale. L'Assemblée nationale vote le projet de loi sur la recherche à 48 voix contre 20. Le texte fixe la trajectoire budgétaire sur 10 ans avec une hausse du budget de la recherche de 30% d'ici à 2030. Et puis la disparition de Juliette Gréco, l'icône de la chanson française, avait notamment interprété les textes de Brel, de Gainsbourg ou encore de Boris Vian. Elle nous a quittés à 93 ans.
Europe 1.
On écoute Le Monde Changer sur Europe 1. Tous les matins depuis la Haute-Loire avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Sébastien.
On regarde notre planète avec vous. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 5-7.
Il est 6h27 sur Europe 1. On écoute Le Monde Changer et on regarde notre planète avec Fanny Agostini. Fanny, vous nous dites ce matin que ce serait la fin des escargots.
Alors, pas tous les escargots, Sébastien, mais une espèce d'escargot en particulier, dont il me semble important de rendre hommage. Je vous annonce ce matin, effectivement, que les derniers jours d'un petit escargot corse sont comptés. Le Tirrenaria serratina, endémique sur l'île de Beauté, est en effet en situation critique d'extinction, inscrit en rouge vif sur la liste établie par l'Union internationale de la conservation de la nature.
Qu'est-ce qui lui arrive à cet escargot corse ?
Eh bien, pour une fois, Sébastien, je ne vous parlerai pas de changement climatique, de pollution. Cet escargot de 2,5 cm de diamètre a pour pire ennemi le tourisme et les infrastructures qu'il a fallu mettre en place pour accueillir toujours plus de monde. Son aire de répartition s'est mis à rapetisser à cause de déviations de cours d'eau et de construction. On trouve les derniers individus sur un espace de quelques hectares et manque de bol pour ces escargots. Pile sur le sentier qui mène les vacanciers à la plage, le coup de grâce leur est porté par les centaines de tongs qui fracassent leurs coquilles sans vergogne, en tout cas sans s'en rendre compte.
Un exemple parmi d'autres qui nous rappelle que les espèces menacées en France sont de plus en plus nombreuses.
Et oui, c'est vraiment à cela que je voulais en venir ce matin. À ce jour, 833 espèces sont menacées en France métropolitaine. 833, 528 issues du monde végétal, 305 pour ce qui est de la faune. Parmi ces animaux les plus touchés, il y a bien sûr les oiseaux dont on parle énormément dans les médias. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la catégorie qui se trouve davantage sur la sellette, ceux pour qui les prochaines années seront probablement les dernières, ce sont les crustacés d'eau douce, comme l'anguille ou certaines écrevisses, comme l'écrevisse à pattes blanches, et les mollusques, comme notre petit gastéropode corse. Alors c'est vrai que ça peut paraître anodin, mais les invertébrés doivent aussi susciter notre intérêt, d'où l'importance de faire de la pédagogie. La biodiversité qui décline, ce n'est pas simplement les espèces emblématiques comme le rhinocéros blanc, le tigre du Bengale, l'ours polaire. Certaines disparaissent de façon beaucoup plus confidentielle et pourtant, elles sont bien plus proches de nous.
Ouais, et la disparition d'un tout petit escargot peut aussi être un signal inquiétant. Merci Fanny Agostini, à demain. 6h29, l'heure de la météo, avec cette journée maussade qui s'annonce, Laurent Cabrol.
Oui, plus que maussade, même une journée agitée, hein, parce qu'il y a beaucoup de vent et puis il y a énormément d'averses et d'orages en perspective. Alors, le gros temps va sévir cet après-midi sur la Normandie, la Picardie, le Nord, la Champagne-Ardenne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, la région parisienne et le Limousin. Nous aurons là, effectivement, de grosses averses avec pas mal d'orages. Et les orages seront violents sur l'Alsace, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, la vallée du Rhône, la Côte d'Azur et la Corse. Il y a tout un groupe de régions françaises qui sont actuellement sous cette emprise d'un temps très très agité qui vient de l'Atlantique. Le vent va souffler jusqu'à 90 à 110 km/h sur les côtes, autour de 70-80 dans les terres. Donc nous allons vivre vraiment une période très dure, les températures entre 17 et 21 degrés.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Merci d'être fidèle au 5-7 d'Europe 1 pour vous réveiller et pour vous informer jeudi 24 septembre. Toute l'info tout de suite avec François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal, il est 6h30.
Ça continue et je sais pas quoi faire. J'ai 3 employés, j'en ai débauché d'autres. Si ça continue comme ça, je vais rendre les clés. Hein.
Un coup de massue pour les patrons de bars et restaurants marseillais. Ils vont de nouveau baisser le rideau, 2 semaines minimum. À Paris et dans 10 autres métropoles, les lieux culturels et sportifs s'apprêtent aussi à fermer. L'hommage à Ruth Bader Ginsburg, des centaines d'Américains défilent devant la dépouille de la juge de la Cour suprême. Et puis lui mérite les honneurs de tout un peuple de gourmands. Le chef triplement étoilé, Pierre Troisgros, disparu hier à Roanne. On entendra l'un de ses disciples, devenu grand lui aussi.
C'est l'autre annonce de ces dernières heures. L'Europe veut se doter d'un nouveau système pour protéger ses frontières et pour examiner les demandes d'asile. Que changerait ce nouveau pacte européen à la situation explosive en Méditerranée? Peut-on parler de solidarité ou de fermeté? La commissaire européenne en charge du dossier est l'invité du 5-7. Ylva Johansson en ligne avec nous depuis Bruxelles. À suivre aussi votre revue de presse internationale et l'innovation du jour d'Anissé Mbida. Bienvenue, 6h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Fermeture pure et simple des bars et restaurants à partir de samedi dans la métropole d'Aix-Marseille. La décision annoncée hier soir par le ministre Olivier Véran a de quoi accabler une profession déjà sinistrée. Pour Europe 1, Stéphane Frangy.
La colère et l'amertume l'emportent pour beaucoup, comme Jacques, derrière le comptoir de son bar tabac.
C'est justice à deux vitesses, parce qu'on ferme les bars et les restaurants, parce que le virus ne circule pas dans les centres commerciaux, effectivement, dans les salons de coiffure, ça, il ne circule pas le virus. Il est interdit d'accès. Il rentre que dans les bars et que dans les restaurants. En fait. Tout ça, c'est que du bidon.
Et ces mesures du ministre de la Santé risquent d'être contre-productives, estime Jamila, gérante d'un bar-restaurant.
Si les gens veulent se réunir d'une façon ou d'une autre, ils iront en supermarché acheter de l'alcool. Et là, je pense qu'on va encore plus faire courir de risques, parce qu'on n'aura aucune surveillance.
Pour Polo, patron d'un petit troquet de quartier depuis 47 ans maintenant, c'est peut-être le coup de grâce.
C'est très dur, ça continue et je sais pas quoi faire. J'ai perdu 70% de ma clientèle, je fais plus rien. J'ai 3 employés, j'en ai débauché d'autres. Si ça continue comme ça, je vais rendre les clés.
Et tous doutent des aides promises par le ministre comme de l'objectif que ces mesures ne durent pas plus de 2 semaines. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Punition collective, hein, voilà la réaction du président LR de la région Sud, Renaud Muselier. Colère et étonnement pour la maire écologiste de Marseille, Michel Rubirola, ex-Marseille donc. Et toute la Guadeloupe sont classées en zone d'alerte maximale. C'est aujourd'hui l'échelon le plus élevé.
Le deuxième échelon, juste en dessous, se nomme zone d'alerte renforcée. Il s'applique à 11 métropoles, Bordeaux, Lille, Nice ou encore Toulouse, ainsi que Paris et les 3 départements de la Petite Couronne.
Avec dans le détail la fermeture des bars à 22h au plus tard. L'horaire sera fixé par les préfets et c'est valable à partir de lundi. Les gymnases aussi seront fermés. Une décision douloureuse pour beaucoup de petites associations sportives comme ce club de basket de Boulogne-Billancourt, près de Paris, qui s'entraînait hier soir. Pierre Herbulot.
3 semaines après le début de la saison, les derniers crissements de parquet résonnent dans le gymnase. Julien, le responsable du club, vient d'annoncer la nouvelle à l'équipe senior en plein milieu de l'entraînement.
Après, voilà, on verra ce qui se passera dans la suite de la saison, en espérant que ça réouvre assez rapidement pour nous. Bon pour tout le monde.
Il n'est pas en colère, mais résigné.
Bah, c'est comme ça, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Pour l'instant, bah, on va espérer que ça ne dure pas comme l'année dernière où ça nous coupe toute la saison complète. Maintenant, on savait qu'on était un sport en salle aussi et que dès qu'il y aurait un problème, on serait les premiers impactés.
Pour les licenciés, c'est la douche froide avant même le retour au vestiaire.
Après tout ce qu'on a fait, prépa physique et tout, c'est vraiment, ça nous casse vraiment. On est déçus là.
C'est triste. Franchement, c'est un coup au moral. On s'y attendait pas du tout.
Ce n'est pas faute pourtant d'avoir adapté les entraînements, raconte Florence qui coach les cadettes.
On devait désinfecter les ballons, se passer les mains au gel sans arrêt, entraîner avec masque pour les entraîneurs. Et les joueuses avaient des mesures aussi de ne pas se rapprocher, etc. Et on les respectait, on a tout appliqué dans les normes et puis maintenant on arrête.
Reste un dernier match à jouer ce week-end pour le club en tête d'un championnat à l'avenir très incertain.
Il est 6h34 aux États-Unis. Le début des hommages nationaux à Washington pour la juge Ruth Bader Ginsburg. Même Donald Trump doit venir se recueillir aujourd'hui devant sa dépouille.
Lui qui a prévu d'annoncer dès samedi le nom de sa remplaçante, qui sera sans aucun doute du camp conservateur, tandis que Ruth Bader Ginsburg venait, elle, de la gauche. Une chapelle ardente est dressée et le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Xavier Yvon, est sur place.
Dans la file d'attente au pied des immenses colonnes blanches de la Cour suprême, les admirateurs de Ruth Bader Ginsburg partagent leur tristesse, mais aussi leur angoisse. On est terrifié, dit une mère venue avec sa fille, terrifié notamment pour les droits des femmes. Trump va nommer l'opposé total de Ruth. Ils vont pouvoir renverser tout ce qu'elle a fait. On va revenir aux années 50, dit Heather avec son masque à l'effigie de la magistrate. Cette militante démocrate sèche ses larmes versées devant le cercueil recouvert du drapeau étoilé et elle ajoute: on va se battre pour ce que Ruth nous a laissé. Et ça passe d'abord par faire élire Joe Biden. Faire revenir les démocrates au pouvoir, c'est la seule issue, explique aussi Justin. On pourra alors ajouter des juges à la Cour suprême, légiférer sur l'avortement. L'étudiant venu de New York espère, dit-il, que cette perte servira de signal d'alarme pour les démocrates, pas très motivés par Joe Biden, notamment les jeunes. On n'a plus le choix, il faut voter pour lui. Et comme pour illustrer ce souhait, des manifestants descendent la rue derrière la Cour suprême en scandant: n'oubliez pas de voter en novembre. Washington, Xavier Yvon, Europe 1.
Un autre hommage ce matin pour une légende bien française, l'un des papes de la gastronomie, inventeur du saumon à l'oseille, Pierre Troisgros, disparu hier à 92 ans. Son restaurant, tenu aujourd'hui par son fils, est 3 étoiles, au guide Michelin depuis plus de 50 ans. Il a inspiré des générations de chefs, parmi lesquels Guy Savoy, qui garde un souvenir, disons, assez costaud de l'un de ses tout premiers stages de cuisine dans les années 70. C'était avec Pierre Troisgros.
Je me souviens, moi j'étais donc responsable de la chambre froide des légumes. Et un jour, Pierre Troisgros rentre dans la chambre froide et c'est vrai qu'elle n'était peut-être pas rangée parfaitement. Il m'a vidé toute la chambre froide dans les bras. J'avais juste le temps de poser les produits par terre pour la ranger. Non, c'était une école magnifique de rigueur, de tout. Voilà, c'était toujours juste. Le respect des produits, donc le respect de ceux qui produisaient les produits. Et moi j'ai eu la chance de vivre tout ça en direct et en face de personnes comme Pierre Troisgros. Et ça reste mon socle de formation, ce qui me permet de faire tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais aujourd'hui et tout ce que je ferai demain.
Le témoignage de Guy Savoy ce matin sur Europe 1.
En hommage donc à Pierre Troisgros. C'était le journal de 6h30, signé François Geffrier. Il est 6h37.
Europe 1.
Et j'accueille l'invité du 5-7 ce matin. Bonjour Ylva Johansson. Bonjour madame, bienvenue sur Europe 1, merci de nous accorder cet entretien depuis Bruxelles. Vous êtes la commissaire européenne en charge des affaires intérieures et donc en charge de l'immigration. Vous avez annoncé un nouveau dispositif, un nouveau pacte pour l'Europe hier. Va-t-on vers plus de solidarité ou vers une meilleure sécurisation des frontières? Vos réponses dans quelques secondes sur Europe 1, à tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
L'invité du 5-7 est en ligne avec nous de Bruxelles, Ylva Johansson. Merci d'accorder un moment aux auditeurs d'Europe 1 ce matin. Vous êtes donc la commissaire européenne en charge de l'immigration. Vous avez proposé un nouveau pacte, un nouveau système hier. Justement, question très concrète pour commencer. Il y a ce bateau aujourd'hui, le Alan Kurdi, qui fait route vers Marseille avec 125 migrants secourus en mer. Ni la France ni l'Italie ne veulent l'accueillir. On a le sentiment que c'est toujours la même histoire qui se répète. Où est la solution ?
Ça montre surtout le besoin d'une politique commune pour gérer l'immigration. Et dans ma proposition, ce que je demande, c'est une coordination des efforts entre les ONG, les États et les organisations internationales.
Mais jusque-là, ça n'a jamais marché.
Oui, c'est une nouvelle proposition, quelque chose qui n'a jamais été demandé avant. C'est nouveau avec de nouvelles recommandations. Dans ce pacte, nous demandons aussi que les opérations de recherche et de sauvetage fassent partie d'un mécanisme de solidarité. Ceux qui débarqueraient d'un bateau seraient contrôlés à la frontière, reconduits dans leur pays s'ils sont refusés. Et les autres seraient accueillis dans un groupe de pays défini à l'avance. Nous n'aurions plus besoin de négocier la répartition à chaque fois qu'un bateau arrive.
Vous parlez de solidarité entre Européens, mais il n'y aura pas d'obligation. Les pays comme la Hongrie ou l'Autriche pourront toujours refuser de prendre leur part et d'accueillir des réfugiés.
C'est vrai que nous ne parlons pas de relocalisation obligatoire, mais certains États pourraient montrer leur solidarité en aidant au retour des migrants qui ne seront pas éligibles à l'asile. Et pour moi, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui ne sont pas des réfugiés. Et ceux pour qui la demande d'asile est refusée devront être conduits dans leur pays.
Mais on peut encore parler de solidarité quand l'Europe va se diviser en deux blocs. Il y aura d'un côté les pays qui accueilleront des réfugiés et de l'autre les pays qui financeront les reconduites à la frontière.
Je ne crois pas. Je pense que ce sera de la solidarité. Il faut voir la situation actuelle. Parmi les migrants qui arrivent, les deux tiers ne sont pas des réfugiés. Et eux devront repartir. Pour être honnête, l'Union européenne n'est pas à la hauteur pour les retours dans les pays d'origine.
Comment être plus efficace alors? Comment mieux protéger les frontières? Comment être plus rapide dans l'examen des demandes d'asile?
Ce qui est important dans nos propositions, c'est qu'il y aura une procédure d'enregistrement obligatoire à l'arrivée, qui sera très rapide, avec ensuite un contrôle à la frontière. Et ce contrôle devra se faire dans une limite de temps très courte. Nous faisons ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu dans l'Union européenne pendant des années avant qu'ils aient une réponse à leur procédure. Et après ça, c'est très difficile pour eux, mais aussi pour les autorités d'organiser le retour au pays d'origine. C'est important pour dire à nos citoyens que nous gérons l'immigration de manière ordonnée, d'être capable d'accueillir ceux qui sont éligibles à rester, mais aussi en étant très clair. Ceux qui ne sont pas éligibles doivent repartir.
Oui, sauf qu'aujourd'hui, seulement 29% des migrants dont l'asile est refusé sont réellement reconduits à la frontière aujourd'hui.
C'est très faible et c'est pour ça que nous devons nous attaquer au problème. Et c'est une des inquiétudes des citoyens.
Et c'est un souci diplomatique aussi qu'il faudra régler. Que dites-vous à propos des ONG qui organisent des opérations de sauvetage en Méditerranée? Est-ce que leur travail doit être protégé, encouragé? Ou au contraire, est-ce que ces humanitaires provoquent une forme d'appel d'air, comme disent certains?
Eh bien, les associations qui font un travail humanitaire doivent être protégées. Et dans nos recommandations, nous disons qu'elles ne doivent pas être criminalisées. Je pense que c'est une obligation de sauver des vies en mer.
Mais mon travail, c'est aussi d'empêcher des personnes de payer les passeurs et de risquer leur vie en allant sur les bateaux. Et pour ça, il faut redoubler d'efforts au sein de l'Europe pour mieux combattre les réseaux criminels.
Ce sujet de l'immigration divise l'Europe depuis 2015 et la divise profondément. Aucun système n'a fonctionné, aucun accord n'a été approuvé par les 27. Est-ce que cette fois, vous êtes optimiste ? Est-ce que ce pacte va aboutir ?
Oui, je suis optimiste. Bien sûr, c'est difficile. Mais j'ai passé beaucoup de temps à discuter, à écouter les différents États membres. J'ai beaucoup parlé avec Christophe Castaner et maintenant avec Gérald Darmanin. Je pense avoir pris en compte les principales inquiétudes des différents pays dans ce pacte. Bien sûr, aucun État ne sera pleinement satisfait de ma proposition. Mais je pense qu'ils peuvent tous voir que je fais une proposition équilibrée qui s'attaque aux défauts du système actuel.
Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Madame Ylva Johansson, vous êtes la commissaire européenne aux affaires intérieures. Merci pour vos réponses depuis Bruxelles sur ce nouveau pacte sur l'immigration. Et on ira en Grèce dans quelques minutes dans la revue de presse internationale d'Europe 1. On verra comment ces annonces sont perçues depuis Athènes, la Grèce, pays bien sûr en première ligne sur ces questions. Il est 6h45.
Europe 1.
Bonjour Anis Mbida.
Bonjour Sébastien.
Le 5-7 continue avec votre innovation du jour.
Oui, c'est une technologie qui évitera aux enfants de tomber sur des vidéos qui ne leur sont pas destinées quand ils sont sur Internet.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Sébastien Krebs.
Il est 6h48 sur Europe 1. Alerte sanitaire renforcée dans 11 grandes métropoles, dont Paris, Lille, Nice, Toulouse. Fermeture des bars au plus tard à 22h dès lundi. Grand rassemblement limité à 1000 personnes. Un cran au-dessus, l'alerte maximale décrétée à Aix-Marseille et en Guadeloupe. Là-bas, les bars et restaurants seront totalement fermés, et cela dès samedi. La défiance face au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Les deux principaux syndicats de magistrats appellent à des rassemblements devant tous les tribunaux de France aujourd'hui. Et puis 4 matchs de suspension pour Angel Di Maria, le joueur du PSG sanctionné pour un crachat en direction du Marseillais Alvaro Gonzalez. C'était lors de PSG-OM il y a 10 jours. On écoute le monde changer et on regarde vers le futur avec Anis et Mbida, votre innovation du jour. C'est une nouveauté qui va intéresser beaucoup de parents, Anis, toutes les vidéos inappropriées pour les enfants qu'on peut trouver sur Internet, eh bien, vont être automatiquement filtré sur YouTube.
Oui, c'est vrai que c'est un problème aujourd'hui. Les enfants regardent tranquillement un dessin animé et à la fin, parmi les vidéos proposées, ils peuvent tomber sur du contenu qui ne leur est pas du tout destiné. Hein. Je ne sais pas moi, des images d'actualité ou même certains clips vidéo par exemple. Aujourd'hui, ces vidéos doivent être signalées à la main par des modérateurs. Or, c'est devenu totalement ingérable vu que la plateforme reçoit plus de 500 heures de vidéos par minute. 500 heures de visionnage par minute, vous imaginez ?
Colossal.
C'est impossible. Et bien désormais, on va faire appel à une intelligence artificielle pour scanner chaque vidéo et valider si oui ou non elle peut être diffusée à des enfants.
Et si elle n'est pas validée, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, il faudra se connecter pour vérifier qu'on a bien plus de 18 ans. Et dans certains cas, on pourra même vous demander une preuve, hein, c'est-à-dire la carte bancaire ou une pièce d'identité, ce qui est nouveau, hein, ce n'était pas le cas jusqu'ici. Alors, ça n'a rien d'une prise de conscience soudaine de YouTube. Il se trouve qu'une directive européenne oblige les plateformes à protéger les mineurs sur Internet. Et c'est cette directive, notamment, qui a été traduite dans la fameuse loi française qui obligera à prouver son âge sur les sites porno.
Et si on met le porno mis à part, est-ce qu'on est sûr que l'intelligence artificielle ne va pas censurer finalement des contenus totalement bénins?
Bah si, c'est sûr, hein, il va y avoir des bugs. D'ailleurs, YouTube en est conscient. C'est pour ça que les auteurs seront prévenus instantanément. Ils pourront faire appel. Et là, plus question de machines, ce seront des humains qui valideront que la vidéo peut bien être visionnée par des enfants.
Un gros enjeu pour les parents d'éviter que leurs enfants soient confrontés comme ça à des images choquantes. L'intelligence artificielle, donc, à l'aide pour le filtrage d'Internet. Merci, Anis Mbida. À demain. 7h10 sur Europe 1, l'heure d'ouvrir notre revue de presse internationale. L'actualité telle qu'elle est vécue ailleurs sur la planète. Et nous allons donc en Grèce. Bonjour Joël Bronner.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait l'actualité à Athènes ?
Ce qui fait la une, c'est notamment la réforme de la politique migratoire européenne. Le journal conservateur Katimerini rappelle que le règlement dit de Dublin, je cite, « n'a cessé d'attiser les tensions entre les 27 en raison du poids qu'il place sur les pays qui sont géographiquement situés sur le front des arrivées ». En particulier la Grèce donc, l'une des principales portes d'entrée des demandeurs d'asile en Europe. Athènes demande depuis des années davantage de solidarité face à ce qu'elle qualifie de fardeau migratoire. Mais les mesures annoncées sont jugées limitées et c'est la presse de gauche qui se montre la plus critique. Le quotidien grec Efsin titre par exemple « Ils abolissent les quotas d'accueil des réfugiés et cèdent aux pressions xénophobes », en allusion aux pays d'Europe centrale qui refusent d'accueillir des réfugiés. Le site Economico dénonce lui dans le même esprit une solidarité à la carte.
Merci Joël Bronner, correspondant Europe 1 en Grèce. Deuxième étape aujourd'hui en Hongrie. Bonjour Joël Lepavou.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui intéresse la presse à Budapest ?
Eh bien, c'est la finale de la Supercoupe d'Europe de football entre le Bayern Munich et le FC Séville qui se jouera ce soir à Budapest devant 15 000 spectateurs alors que le coronavirus explose en Hongrie. 500 soignants pourront d'ailleurs assister au match, déplore l'ordre des médecins cité par Major Naranj. 3 000 billets ont été réservés pour les supporters de chaque équipe, mais seuls 1 300 fans munichois et 500 aficionados andalous sont attendus au maximum dans la Puskás Arena, rapporte Havegé. L'entraîneur du Bayern aurait préféré un duel à huis clos, explique Index, tout comme le Premier ministre Bavarois craignant un niche-gueule du football, écrit Nepsava, référence à la station de ski autrichienne devenue cluster. Mais pas question de paniquer en dépit de la deuxième vague, assure la fédération hongroise de football reprise par Nemzeti Sport. Toutes les consignes de prudence seront suivies, distanciation sociale, masque obligatoire et aucune entrée au-delà de 37,8 de température.
Ah, des questions qu'on connaît bien en France et qui se posent aussi ailleurs. Merci Joël Lepavou, correspondant Europe 1 en Hongrie. Et nous terminons ce tour du monde ce matin à Berlin. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Sébastien.
Que lit-on à la une en Allemagne ?
De nombreux journaux publient la même photo ce matin, celle d'un homme pâle, les mains crispées, assis dans un parc sur un banc. C'est l'opposant russe Alexeï Navalny qui est sorti hier de l'hôpital. D'après le journal berlinois Morgenpost, il se trouverait toujours à Berlin. Mais il n'envisage pas de demander l'asile politique ici en Allemagne, précise le Bild. Il compte rentrer en Russie quand il aura fini sa rééducation. L'hebdomadaire Die Zeit, dans son édition en kiosque ce jeudi, donne des détails sur son état de santé. Malgré les 18 jours de coma, les médecins pensent qu'une rémission totale est possible. Mais sa main gauche est encore paralysée et Navalny a du mal à garder l'équilibre tellement ses jambes sont faibles. Selon le Bild, il n'a aucun souvenir précis de son empoisonnement. Il n'en garde que des impressions.
Hélène Kohl en Allemagne pour Europe 1. Nous étions en Grèce, en Hongrie, en Allemagne. Un tour d'Europe ce matin dans la revue de presse internationale avec tous les correspondants d'Europe 1 chaque matin à 7h10.
Europe 1.
Il est 7h54 pour l'heure. La météo de Laurent Cabrol, le journal d'Hélène Zelani arrive. C'est le 7-9 de Mathieu Béliard qui démarre dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.